On va commencer, les retardataires vont nous rejoindre. Donc, bonsoir à tous, bienvenue à l'espace Mendès France. Voilà, donc il y a certaines personnes que je connais, d'autres nouvelles, donc c'est très très bien. Donc juste pour vous rappeler qu'actuellement, c'est la fête de la science. Donc pendant cette semaine, les expositions de l'espace Mendès France sont gratuites. Donc on a deux expositions, une sur le cerveau et addiction, tout ce qui touche donc aux problèmes de drogue et de toxicomanie, et une autre sur le climat. Donc et tout le week-end, je vous envoie à la plaquette et au programme sur Internet si vous voulez vous divertir et profiter de la fête de la science. Ce soir donc, nous retrouvons l'association Rêve en Poche, donc réseau veille sommeil en Poitou-Charentes. Donc depuis 2 ou 3 ans, nous faisons régulièrement des conférences pour parler du thème du sommeil qui nous préoccupe tous. Et ce soir, donc, nous allons parler du risque d'un manque de sommeil. Et c'est le professeur Xavier Drouot qui a accepté donc, de faire la conférence. Donc, je le remercie. Donc, suite à son exposé, vous poserez vos questions. Voilà, le professeur donc, Xavier Drouot est neurophysiologiste. Il travaille au service de neurophysiologie clinique du CHU de Poitiers. Et donc, il intervient aujourd'hui dans le cadre de l'association Rêve en Poche. Voilà, je lui laisse tout de suite la parole.
Merci. Le rouge, le rouge ou le jaune, non, plutôt. Bien. Je vais donc prendre le rouge. Bonsoir à tous, merci d'être là. Merci, madame, de m'avoir présenté. Et donc, effectivement, je vais reprendre un peu le flambeau du monsieur à moustache que vous avez dû voir cette année. Moi, ma moustache a un petit peu du mal à pousser, mais ça va venir. Il paraît qu'il faut, quand on est physiologiste, il faut se laisser pousser la moustache. Il y a des belles vacances. Je ne sais pas si vous voyez, monsieur Pacro, c'est très jolie moustache. Un grand monsieur du sommeil. Et donc, effectivement, on avait décidé de parler un peu dans ce cadre de ces conférences, de rester un peu sur le sommeil. Alors, il vous a parlé de beaucoup de choses, je crois, de l'insomnie, de l'horloge interne. Et donc, moi, je vais vous parler des risques que l'on prend pour sa santé, pour les autres, pour son comportement, on va voir ça, à pas beaucoup dormir, pas assez dormir ou pas bien dormir. Alors, c'est un très vaste sujet, donc je me suis un petit peu limité à un peu par choix, à certains domaines. Et si vous trouvez que je n'ai pas été assez long, eh bien, vous me réinviterez. Il est conseillé de ne pas s'endormir dans les conférences sur le sommeil. Surtout que je suis assez expert pour repérer les gens qui s'endorment et pour les réveiller. En même temps, ça fait des sujets d'expérience en direct, comme ça. Donc peut-être que je vous montrerai des gens en train de s'endormir. Alors, je vais vous parler donc de sommeil. Je vais vous rappeler un petit peu comment est-ce que le cerveau fait pour s'endormir, parce que c'est une mécanique extrêmement sophistiquée, beaucoup plus compliquée que l'on ne l'imagine. Je vais très rapidement vous passer sur les causes qui pourraient faire qu'on ne dort pas assez ou qu'on ne dort pas bien. Pour être un peu plus long et un peu plus... pour m'étendre un petit peu sur les risques de ce manque de sommeil, avec des risques à très court terme, le lendemain d'une nuit un petit peu courte ou dans les jours qui suivent des nuits un petit peu courtes. Et puis sur les risques à plus long terme, et là c'est plutôt des risques sur la santé, un peu plus... qui s'étale un petit peu sur les mois et des années quand le manque de sommeil s'installe et perdure sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, je vais faire une petite palissade. Le sommeil, c'est important pour tout le monde. C'est vraiment très, très important parce que tous les animaux dorment. Donc, il y a de grandes chances que l'homme ait besoin de ce sommeil, puisque même les vers dorment. Des gens qui ont montré des mouches, des gens qui s'intéressent au sommeil des mouches. Des oiseaux, c'est un peu plus récent et c'est un peu plus intéressant. Et le chat, l'éléphant, le dauphin. Et on dort d'autant plus qu'on est méchant. D'accord. Plus on est méchant, plus on vous laissera dormir, ce qui est finalement assez logique. Sachant quand même que quand on est endormi, on peut être, d'une certaine façon, assez vulnérable, au moins à l'environnement extérieur et aux prédateurs. Ce qui n'est pas le cas de ce gros nounours ici. Et donc, effectivement, le lion est probablement un des animaux qui dort le plus longtemps. Alors, toujours une petite parenthèse pour vous essayer que vous puissiez comprendre un petit peu la façon dont fonctionne le cerveau durant le sommeil. Très schématiquement, il y a deux systèmes dans le cerveau. Il y a un système dédié à l'éveil, il y a un système dédié au sommeil. Donc vous avez ici, alors je vous ai représenté très schématiquement encore une fois les neurones de l'éveil. Il y a tout un groupe de neurones qui se situe ici, dans la profondeur du cerveau. Dans le cerveau, c'est un cerveau assez ancien, beaucoup d'animaux longs. En particulier, les rongeurs ont ce type de cerveau, ce cerveau archaïque. Et donc, il y a plein de neurones qui sont impliqués dans le maintien de différents types d'éveil. Je ne vais pas m'étendre. Et puis, dans à peu près la même zone, il y a d'autres neurones qui sont chargés d'endormir et d'organiser le sommeil. Et donc, le principal groupe de neurones, il est ici, un tout petit peu plus élevé, par rapport aux autres noyaux de l'éveil qui sont là. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, ça fonctionne sur un mode de bascule. D'accord ? Quand ça fonctionne normalement. Ça fonctionne en bascule. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, normalement, être en même temps endormi et en même temps réveillé. On en dira peut-être un petit mot à la fin de la conférence si vous avez des questions là-dessus. Je vous donnerai quelques exemples un peu particuliers. Mais théoriquement, ça se passe comme ça. Et donc, effectivement, le matin... Eh bien, quand on se réveille, eh bien, c'est les neurones de l'éveil, ceux-ci, qui prennent le contrôle du cerveau et qui maintiennent l'ensemble du cerveau réveillé dans un état de fonctionnement actif, optimal, capable de répondre aux sollicitations de l'environnement extérieur, capable de chercher de la bouffe, d'aller faire les courses, d'aller travailler. Bref, il y a tout un tas de neurones qui s'occupent de ça. Et puis, au fur et à mesure de la journée, donc, cette bascule, elle est comme ça, c'est le neurone donc, de l'éveil qui gouverne. Et puis, au fur et à mesure que la journée se passe, et puis sous l'influence de deux grands facteurs que l'on va voir dans un instant, eh bien, il y a une bascule qui se fait vers 22h, 23h, où ces neurones de l'éveil sont fatigués, ils diminuent d'activité, et c'est les neurones du sommeil qui prennent le contrôle du cerveau et qui vont déclencher le sommeil, les différents types de sommeil, les différents cycles de sommeil, l'organisation périodique en cycle. Je vous donnerai montrer une petite image tout à l'heure des différents cycles de sommeil sur 90 minutes qui s'articulent. Et puis à la fin de la nuit, il y a ces neurones du sommeil donc, qui sont ici, qui ont le contrôle du cerveau. Eh bien, eux aussi, ils fatiguent, ils ont fait leur job et ils arrêtent progressivement de fonctionner. Et c'est les neurones de l'éveil qui reprennent le contrôle et ainsi de suite. D'accord ? Donc on s'endort le soir et on se réveille le matin. En grande partie sur la base de cette bascule qui se fait comme ça, de manière indéfinie. Alors, il y a deux grands processus qui gouvernent le sommeil et qui permettent d'aider cette bascule, là, et qui est très importante à respecter pour ne pas manquer de sommeil. Le premier, c'est, on vous en a déjà parlé certainement, si vous aviez pu assister aux conférences de Joël Pacrot, c'est l'horloge interne. Donc là, il y a juste une petite présentation pour vous rappeler. L'horloge interne, eh bien, c'est effectivement, ce dessin est assez représentatif, il y a dans la profondeur du cerveau une horloge qui donne le temps, qui donne l'heure. D'accord ? C'est-à-dire que vous savez, votre cerveau sait à peu près, à 2-3 heures près, quelle heure il est. C'est-à-dire que si on fermait la porte et qu'on passait une petite semaine ici tous ensemble dans une pièce où il n'y a pas du tout de fenêtre et vous ne savez pas s'il fait jour ou s'il fait nuit, et si je vous donnais pour consigne eh bien, de vous coucher quand vous pensez que c'est le soir et de vous lever quand vous pensez que c'était le matin, que c'est le matin, eh bien, vous vivrez sur un cycle à peu près normal. Vous vous réveillerez globalement entre 7h et 9h, et puis vous endormiriez tranquillement entre 21h et 23h, sans que vous ayez aucun autre élément. C'est essentiellement dû au fonctionnement de cette horloge interne qui donne l'heure à l'ensemble du cerveau. Alors, vous avez effectivement, c'est cette horloge-là qui donne donc un indice au cerveau. Elle donne l'heure de dormir, l'heure de l'endormissement, et l'heure de se réveiller. D'accord ? Alors, l'heure de dormir, ça, vous devez probablement en avoir fait l'expérience. C'est le moment dans la soirée où on a un petit coup de barre et on irait bien se coucher, on bâille, on est fatigué. Et puis, si on lutte un petit peu, si on résiste, eh bien, ça passe. D'accord ? Eh bien, ce qui vient de se passer là, c'est assez variable selon les individus, mais c'est le premier train du sommeil qui vient d'arriver, dans lequel vous n'êtes pas monté si vous avez réussi à résister et à passer un coup de fil, à ouvrir votre ordinateur ou à avoir une activité un petit peu éveillante. Eh bien, ce premier train du sommeil, vous l'avez loupé. Le prochain est globalement une heure et demie plus tard. Alors, cette horloge interne, elle est très importante. Alors, elle est quand même assez malléable, hein, elle n'est pas fixe, c'est-à-dire que c'est pas une horloge qui donne l'heure comme ça à tous les coups. Elle est malléable et elle peut s'adapter à l'environnement, c'est-à-dire que quand vous allez à New York ou quand vous allez au Japon, eh bien, elle va s'adapter au jour-nuit. D'accord. Cette horloge interne, c'est elle aussi qui nous donne notre caractéristique. Hein. Vous savez, vous avez probablement entendu parler qu'il y a des gens du soir, il y a des gens du matin. Eh bien, c'est là aussi le fonctionnement de l'horloge interne qui est un petit peu différent chez ces gens-là. Pas tout à fait la même heure, c'est-à-dire que les sujets du soir sont plutôt des couche-tard-lève-tard et les sujets du matin sont plutôt des couche-tôt-lève-tôt. Et donc, effectivement, l'horloge, elle est un petit peu décalée chez les gens du soir par rapport aux gens du matin. Donc ça, c'est un processus important qu'il faut savoir. Quand l'horloge interne vous dit d'aller dormir, enfin, pas tout de suite, hein, tout à l'heure, quand vous rentrez chez vous, j'espère que vous n'avez pas des horloges internes trop en avance, parce que vous n'allez pas me suivre. Je disais quoi ? Oui, voilà, quand l'horloge interne vous dit d'aller dormir, eh bien, il faut y aller. D'accord ? C'est le moment où vous endormirez parfaitement bien, très rapidement, et que vous aurez une bonne qualité de sommeil au début de la nuit. Alors, le deuxième facteur qui est très important pour le sommeil, c'est le besoin de sommeil. Vous savez que vous avez certainement remarqué que quand on ne dort pas beaucoup, quand on dort moins, eh bien, on est de plus en plus fatigué, on y reviendra tout à l'heure. Et effectivement, il faut dormir suffisamment de temps pour pouvoir être frais et bien réveillé le matin, le lendemain matin, la journée du lendemain. Alors, globalement, le besoin de sommeil, il est difficile à apprécier. Hein. On estime que, globalement, chez l'homme, il faudrait dormir au moins 8 heures par nuit. Alors, c'est assez variable, hein. Chacun a sa quantité de sommeil propre, mais en moyenne, il faudrait dormir 8 heures par nuit. Alors, il y a quand même des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup dormir. C'est ce qu'on appelle les courts dormeurs, les gens qui peuvent se coucher très tard, se lever très tôt, en étant en parfait état, en étant tout à fait vigile et apte. Vous avez ici quelques exemples de courts dormeurs assez connus, hein, Churchill, Victor Hugo, Jacques Chirac, Jacques Attali, Napoléon, des gens qui, effectivement, pouvaient dormir peu. Ce n'est pas parce qu'on dort peu qu'on fait plus de choses, et en tout cas, ce n'est pas parce qu'on dort peu qu'on est plus intelligent, il n'y a pas de corrélation. Et en tout cas, on peut être grand dormeur et être très intelligent, puisqu'Einstein avait besoin de 8 à 9 heures de sommeil par nuit. D'accord ? Et donc, effectivement, on considère grand dormeur les gens qui ont besoin de plus de 8 heures toutes les nuits. Alors, ce n'est pas toujours simple de repérer, de savoir quelle est la quantité naturelle de sommeil dont on a besoin. Globalement, on estime que c'est la quantité de sommeil que l'on dort dans des conditions idéales pendant les vacances, par exemple. Alors, pas forcément la première semaine, parce que la première semaine, elle est probablement utilisée pour rattraper un petit peu soit la nuit courte qu'on a fait pour préparer les bagages, soit les quelques nuits courtes qu'on a fait pour finir et boucler les dossiers. Donc, c'est plutôt la deuxième semaine de congé. Et donc, effectivement, quand on est dans des situations un peu stables, c'est-à-dire pas au Groenland ou pas au Sahara, hein, dans des conditions d'environnement à peu près normales, c'est à ce moment-là qu'on sait à peu près combien de temps on dort. Alors, deux petits mots sur le sommeil, parce que là encore, M. Pacroux a certainement dû vous en parler. Il y a plusieurs types de sommeil. Il y a du sommeil qu'on dit lent, léger et profond, hein, qui est le sommeil qui restaure. C'est-à-dire que c'est un sommeil qui va nous restaurer l'activité physique, qui repose. Et puis, il y a un sommeil qu'on appelle paradoxal, qui est le sommeil dans lequel on rêve, qui est aussi reposant pour le psychisme, hein, puisque c'est durant les rêves qu'on évacue un petit peu toute cette pression, toute cette tension psychologique qui a été accumulée dans la journée. Et donc, c'est aussi quelque chose de très important, une certaine forme de repos. Vous avez ici ce que nous, on appelle un hypnogramme, qui est la représentation du sommeil que l'on obtient au laboratoire du sommeil, quand on enregistre les gens, et c'est juste pour vous montrer que donc alors plus le trait est bas, plus le sommeil est profond, d'accord, hein, donc au début de la nuit, donc vers minuit, les gens sont réveillés, ils s'endorment avec un long épisode de sommeil profond ici, et puis en rouge c'est le sommeil de rêve qui est un petit peu particulier. Le cerveau est très très actif en sommeil de rêve, et donc on l'a mis en rouge. Il y a un premier cycle ici, un deuxième cycle ici, un troisième cycle, un quatrième cycle, voire un cinquième cycle pour les gens qui ont la chance de se réveiller un peu plus tard que 7 heures du matin. Et globalement, un cycle fait 90 minutes. D'accord ? Et donc, à la fin de chaque cycle, l'adulte normal se réveille un petit peu, quelques minutes, et puis se rendort. D'accord ? Donc c'est un phénomène dynamique. Ce n'est pas du coma, hein, c'est-à-dire qu'on ne tombe pas dans le coma ici, boum, et on se réveille. Ce n'est pas du tout ça. Il se passe plein de choses durant le sommeil avec ces différents cycles. Bien. Alors, juste là encore pour vous rappeler ce dont vous avez certainement entendu parler, c'est que donc, ça, c'est la bascule veille-sommeil. Vous avez le facteur circadien, donc, qui est l'horloge circadienne, en fait. La durée de veille, ça, c'est le facteur homéostasique, c'est le besoin de sommeil qu'on a... dont on parlait tout à l'heure, qui interviennent effectivement sur cette bascule, mais il y a aussi plein d'autres environnements qui peuvent modifier cette bascule et altérer la qualité du sommeil. Hein, ça peut être l'environnement, évidemment, les médicaments, le stress, on ne dort pas bien quand on est stressé, et plein d'autres choses. Alors, ce qui est important, et ce que je ne vous ai pas dit, ce que je vais peut-être mettre une diapo, mais je n'ai pas de diapo très, très simplifiée pour l'expliquer, c'est que ce besoin de sommeil-là, il va être important dans nos propos de ce soir, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas son besoin de sommeil, quand on n'a pas la quantité de sommeil normale, que quand on se couche un peu tard et quand on se couche ou quand on se lève trop tôt. Eh bien, c'est principalement, alors on va le voir, mais c'est principalement dans ce genre de situation où on manque de sommeil. Je crois que c'est la diapo suivante. Voilà, parfait. Et donc, c'est essentiellement là-dessus que je vais centrer mon troupeau ce soir, puisque le manque de sommeil, ça peut être un manque de sommeil qui est lié à une maladie du sommeil. Quand on a une maladie du sommeil, on manque de sommeil de bonne qualité. On peut dormir, on peut croire qu'on dort bien, mais en fait, on n'a pas de sommeil de bonne qualité. Ce sommeil de bonne qualité est, remplacé par un sommeil de mauvaise qualité, comme dans le syndrome d'apnée du sommeil, dont vous avez certainement entendu parler, dans le ronflement, dans le syndrome un peu bizarre des syndromes des jambes sans repos ou des mouvements périodiques de jambes, et puis dans d'autres problèmes comme l'insomnie, où là, effectivement, les gens ont du mal à s'endormir ou se réveillent trop tôt, ou se réveillent en pleine nuit et ne se rendorment pas. D'accord ? Donc, les maladies du sommeil, évidemment, exposent quasiment toutes à une perte de sommeil de bonne qualité. Il y a d'autres raisons de manquer de sommeil. Et je crois que M. Paquereau, encore une fois, vous en a parlé, vous savez déjà probablement beaucoup de choses, c'est le travail posté, les horaires décalés, les gens qui travaillent de nuit, d'accord, hein, ou les gens qui travaillent une fois du matin, une fois du soir, eh bien, effectivement, ils ont du mal à trouver le sommeil dans les suites de ce genre de rotation. Moi, je voudrais qu'on s'intéresse plus particulièrement à ce que nous, scientifiques, appelons une privation comportementale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une privation comportementale ? Eh bien, ce sont des gens qui... sont jamais venus à des conférences à l'espace Mendès France sur le sommeil et qui se disent que finalement le sommeil c'est probablement une perte de temps ou du moins qu'il y a tellement de choses plus intéressantes à faire que dormir comme regarder la télé, appeler les copains, chatter avec son portable, regarder des vidéos sur internet au lit, maintenant tous les outils informatiques permettent plein de choses, y compris et notamment le soir. Alors, il y a aussi d'autres causes. Hein. Il y a les trajets un petit peu longs pour aller travailler, où les gens sont obligés de se lever le matin tôt et arrivent tard le soir. Et puis, il y a ceux aussi qui travaillent beaucoup, les jeunes cadres dynamiques, ou les jeunes futurs chefs de service comme moi. Hein. Mon patron n'est pas là, donc je peux le dire. Où on nous force à bosser comme des malades. Et des fois où on est un peu obligé de préparer des conférences pour l'espace Mendès France un peu tard le soir. Eh bien, on se retrouve à être le propre sujet de sa conférence. Bon. Enfin bon, comme on est spécialiste du sommeil, on a l'espoir qu'on s'en sort mieux. Je ne suis pas sûr que ça soit vrai. Comme m'a dit ma femme ce soir. Bien. Alors. Donc, le manque de sommeil, ce propos-là, j'avais envie de passer un peu de temps là-dessus, parce que c'est finalement, c'est pas une maladie, ça touche des gens qui sont pas forcément malades, mais néanmoins, ça peut avoir des conséquences gravissimes sur leur santé, à court terme et à long terme. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Alors, On va pas répondre à toutes ces questions. On peut quand même répondre à la première question. Est-ce qu'on peut se passer de sommeil ? La réponse est définitivement non. On ne peut pas se passer de sommeil. Il y a des gens qui ont fait des expériences sur des rongeurs il y a très longtemps, dans les années 80-90, et se sont aperçus que quand on empêchait des rats de dormir, ils mouraient quasiment tous au bout de 15 jours. Ce qui veut bien dire quand même que quand on dort, il se passe des choses. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on ne sait toujours pas très bien pourquoi est-ce qu'ils meurent, ces rongeurs. Hein. Alors les expériences n'ont pas été réitérées, mais ils se dénutrissent, ils maigrissent, ils grossissent, ils ont des problèmes de température, ils ont de la fièvre, la peau devient plein de lésions et ils meurent, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Alors, est-ce qu'on manque de sommeil ici à Poitiers ? Je crains que oui. En tout cas, c'est ce que nous disent beaucoup d'enquêtes, plutôt au niveau national, j'aurais dit plutôt en France, puisque théoriquement, on a perdu 2 heures de sommeil en 30 ans. Alors là encore, c'est probablement la faute à la technologie, avec l'arrivée dans les maisons de la télévision, d'Internet, des téléphones portables et tout ça. Mais les études, toutes les études, comment on appelle ça ? C'est des sondages, en fait, dans la population générale, ont montré qu'en 1970, on dormait à peu près 8 heures, un peu plus de 8 heures, et qu'en 2009, ils ont refait la même, une étude similaire, et que les gens ont dit qu'ils dormaient en moyenne 7 heures. Quand même beaucoup, hein, quasiment 2 heures en moins, ou presque 2 heures en moins, c'est quand même fait quand même pas mal. Et donc ça, effectivement, c'est une réalité. On dort de moins en moins, la population française dort de moins en moins. J'ai d'autres diapos. Là, c'est une diapo de la population américaine, avec la diminution du temps de sommeil. Donc là, c'est les heures, et là, c'est les années, 1960, ils ont commencé un peu plus tôt que nous. Jusqu'à l'an 2000, ils sont arrêtés aussi plus tôt que nous. Mais effectivement, on voit bien une diminution très importante de la durée de sommeil sur des questionnaires. On appelle des gens, alors c'est des questionnaires faits sur des milliers de patients, des milliers de personnes, pardon, ce ne sont pas des patients, sur des milliers de personnes, des sondages, et qui montrent qu'effectivement, globalement, les gens dorment de moins en moins. Alors, en France, c'est le chiffre que je viens de vous le montrer. Ça, c'est une étude qui avait été faite par l'Institut national du sommeil et de la vigilance, qui avait été dirigé par Joël Pacrot à ce moment-là. Et donc, il a fait une enquête. Alors, je ne sais plus sur les combien de personnes, il y avait 2 ou 3 000 adultes interrogés, c'est un sondage par Internet, je crois. Et donc, sur des adultes, hein, des 18-55 ans, ils avaient demandé aux gens combien de temps vous dormez habituellement par semaine. Et globalement, il y en a quand même un tiers qui dort 6 heures ou moins. Il y en a 60% qui dort 7 ou 8 heures, hein, donc c'est pas beaucoup, et puis quand même très très peu, 3% qui dorment 9 heures, il y en a quand même très très peu qui dorment plus. Donc ça, effectivement, on voit bien que la plupart des gens dorment 7 heures, 7 ou 8 heures. Alors ça, c'était les adultes, c'est pas la même étude, mais je crois qu'elle est juste après, chez les enfants, vous savez que les enfants dorment beaucoup plus, parce qu'il se construit, le cerveau mûrit durant le sommeil des enfants, donc c'est très important que les enfants dorment beaucoup. Un enfant dort à la naissance, il dort environ 20 à 22 heures sur 24, hein, dans les premières semaines. Et donc effectivement, c'est très important. Et globalement, ça c'est la durée de sommeil que l'on tient pour, a priori, normale ou satisfaisante pour les enfants. Et vous voyez que dans cette enquête, eh bien, les chiffres réels, les enfants dorment beaucoup moins que ce qu'ils devraient. Ça, c'est une enquête donc, récente, hein, qui date des années 2000. Et donc, effectivement, les enfants de moins d'un an, c'est petit, hein, moins d'un an, hein, qui devraient dormir 14 à 15 heures. Hein, un an, on fait encore facilement 3 siestes dans la journée. Eh bien, ils dorment quand même pas assez. Et pareil pour 1 à 3 ans, 3 à 5 ans, et même les ados de 11 à 17 ans, effectivement. Et là, il y avait la moitié qui dormait moins de 8 heures déjà. Donc, théoriquement, on n'est pas en bonne position. Et c'est pareil pour la France, hein, les chiffres étaient complètement similaires. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut dormir ? On va revenir à l'adulte. Pourquoi est-ce qu'il faut dormir ? Il faut dormir parce qu'effectivement, sinon, on est fatigué. Et là, la responsable de Mon Laisse France se dit « J'ai bien fait d'inviter ce conférencier. Mes auditeurs vont avoir appris beaucoup de choses. Quand on dort, on est fatigué. » Bien. Alors, je vais aller un peu plus loin quand même, sinon elle ne va pas être très, très contente de moi. Mais qu'est-ce que c'est que la fatigue ? La fatigue, ça, vous l'avez bien compris. On va aller, vous savez tous ce que c'est. On va aller un peu plus loin. Et les physiologistes, les neurologues, les gens qui s'intéressent au cerveau, ils ont un petit peu de mal à savoir ce que c'est la fatigue. Et donc, ils essaient de faire des petites tâches, un petit peu simplettes, pour essayer d'évaluer le besoin de sommeil et les conséquences de la privation de sommeil. Alors, c'est compliqué quand même, hein, parce que pour étudier la privation de sommeil, donc il faut prendre des sujets sains, il faut les empêcher de dormir pendant plusieurs jours, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui vérifie qu'ils ne dorment pas. Donc, c'est quand même des études extrêmement lourdes. Donc c'est pas évident à faire. Néanmoins, il y a le test le plus amusant qui a été fait, c'est ce qu'on appelle le test de un temps de réaction, qui est une tâche de vigilance où il y a un rond bleu comme ça qui est affiché, et puis ce rond bleu il se transforme ou il disparaît ou il se transforme en une croix, et il faut que le sujet réagisse et appuie le plus vite possible sur le clic de la souris. Normalement, quand on est en pleine forme, on fait ça en une demi-seconde, 500 millisecondes. Et donc, effectivement, quand on n'est pas en forme, eh bien, on voit bien qu'au fur et à mesure que le sommeil nous manque, eh bien, le temps de réaction augmente. C'est-à-dire que le cerveau réagit beaucoup plus, de plus en plus lentement. Alors, ça, c'est un test qui a été très utilisé parce que c'est assez objectif, c'est assez simple, et on peut le faire passer à plein de gens. Et donc, vous avez ici la décroissance du temps mis à réagir à simplement cette petite croix. Donc c'est quelque chose de très très simple encore, hein, c'est très basique. C'est extrêmement simple, il suffit que l'œil voit quelque chose et qu'il réagisse, et que le sujet appuie. Et donc vous voyez qu'effectivement, ça ce sont, donc vous avez ici, je suis désolé, c'est en anglais, j'aurais dû le traduire, ça ce sont les heures de veille, c'est-à-dire qu'en fait on a pris quelqu'un, on a commencé à 10h du matin, et puis on l'a empêché de dormir, jusqu'au lendemain Matushka, 24 heures après. Hein. Donc on le prend de 8 heures du soir jusqu'au lendemain matin, 8 heures. Et donc vous voyez qu'au fur et à mesure, plus le temps passe, eh bien, plus il est crevé. Donc ça, effectivement, il le dit. Et on l'imagine bien. Mais surtout, la rapidité avec laquelle il réagit à ce test décroît énormément. Donc ça y a eu beaucoup d'études. Je vous en montrerai d'autres là-dessus avec ce petit test de temps de réaction. Mais les gens se sont dit, bon, bah, c'est bien, ça passe de, voilà, là, donc il est à 1,04, il descend à 0,92, mais finalement, à quoi ça correspond? Quand on dort une nuit, il y a beaucoup de gens qui passent une nuit sans dormir, les chirurgiens, tous les gens qui font des gardes, mais aussi qui travaillent à la SNCF, à la RATP, dans tous les aéroports. Bon, alors, les gens se sont dit, mais il faudrait qu'on arrive à comparer à quelque chose qui altère le cerveau. Ah, ils se sont dit, il y a un chercheur, les chercheurs ont toujours plein de bonnes idées marrantes, et ils se sont dit, il y a aussi quelque chose qui altère le cerveau, c'est l'alcool. Voyons quel est l'effet de l'alcool sur... est-ce qu'on peut comparer l'effet de l'alcool, parce que l'alcool, effectivement, les gens, ils fonctionnent un peu plus lentement, et pourquoi pas. Voilà la courbe. Donc avec, ici, le taux d'alcoolémie et les mêmes chiffres que ceux-là. D'accord ? Pareil. Même décroissance. Et quand on prend les trucs jaunes, là, regardez, ça, 18 heures de veille. C'est-à-dire 18 heures de veille, c'est 18 heures de veille, vous êtes levé à 8 heures le matin, il est cette heure-là, il est à peu près, non, il est 23 heures, 22 heures, 23 heures. D'accord ? À 23 heures, donc après votre temps de réaction, c'est le même que si vous aviez 0,5 g d'alcool dans le sang. 24 heures sans sommeil, c'est le truc rouge, ici, 24 heures sans sommeil, donc on est à 0,94, là, c'est quasiment les mêmes performances que quand vous avez 0,1 g d'alcool dans le sang. Là, ça commence à parler, hein. Là, on commence à se dire, oulala, après une bringue ou une fête en famille, on revient le matin à 8 heures, c'est comme si on avait bu et, comme si on avait bu et qu'on avait 0,1 gramme. Là, on commence à se dire qu'effectivement, quand le cerveau n'a pas dormi, il fonctionne quand même vraiment pas bien. Alors, ça, c'est il y a quelques études qui ont été... Alors, il y a plein d'études qui ont été faites, hein, ça a bien confirmé les choses. Effectivement, globalement, le temps de réaction se dégrade de manière similaire avec la privation de sommeil. Et elle a fait beaucoup de bruit, d'ailleurs, ces études ont fait beaucoup de bruit, parce qu'effectivement, ça marque un peu les esprits. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est le temps de réaction. Il est gentil, le chercheur, mais enfin, bon, ça, dans la vie réelle, ça nous arrive rarement. Et ils ont essayé d'un petit peu d'aller voir un petit peu ce qui pouvait se passer dans la vie un peu plus réelle de ce que vivent, les gens. Eh bien, en particulier, souvent les gens conduisent. Et donc, effectivement, les gens se sont demandé s'il pouvait y avoir une corrélation entre le manque de sommeil et l'accidentologie. Et il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont montré qu'effectivement, maintenant, il y a une grande corrélation entre la somnolence, le manque de sommeil, et l'altération des performances à la conduite et les accidents. Et donc ça, c'est un risque majeur. Et maintenant, il est bien identifié. Vous avez vu, maintenant, sur l'autoroute, ils mettent le grand panneau, somnolence, arrêtez-vous. Voilà. Mais c'est une réalité. Il y a encore, à l'heure actuelle... Alors, toutes les études d'accidentologie, en particulier, il y a un copain à Bordeaux qui s'appelle le professeur Pierre-Philippe, qui étudie ça particulièrement. Ils estiment maintenant, avec les sécurités routières et les autoroutes, qu'environ 30% des décès sur la route sont liés à de la somnolence. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça donne comme accident ? Ça donne des accidents extrêmement particuliers. D'accord. Quand quelqu'un s'endort au volant, c'est jamais quelqu'un qui oublie de s'arrêter au feu rouge. Alors, globalement, en général, ça, on y arrive. C'est le plus souvent le cerveau qui se met tout doucement en veilleuse, progressivement en veilleuse, et c'est la voiture qui dévie tout doucement comme ça. D'accord. Et ça, ce type d'accident catastrophique-là, c'est ça. Tant qu'il n'y a pas de pile de pont, eh bien, c'est pour ça qu'il y a du bruit. Ça fait du bruit quand on passe quand on franchit la bande d'arrêt d'urgence. C'est pour essayer de réveiller les gens parce qu'on sait que quelqu'un qui s'endort, quand un conducteur commence à s'assoupir, eh bien, la voiture elle commence à faire ça. D'accord. Elle dévie comme ça, puis un petit peu vers la gauche et tout ça. D'accord. Et donc effectivement, ça mord sur la bande d'arrêt d'urgence. Tant qu'il n'y a pas de pile de pont, il ne se passe rien. Puis quand il y a une pile de pont, alors dans la vraie vie, ça donne ça. C'est typiquement, je ne sais pas si ça a marché. Ça n'a peut-être pas marché. Ah si, voilà, ça y est. C'est typiquement ça, voilà. C'était pas une pile de pont, c'était un policier, alors il va se relever, il ne s'est rien passé, il est vivant, mais c'est exactement ça. C'est un sujet qui... Voilà. Et donc effectivement, ça c'est majeur, et une des premières causes de somnolence au volant, c'est le manque de sommeil. Là encore, ils s'amusent maintenant à faire des enquêtes au péage et à demander aux gens, le 31 juin, le 1er juillet, lors des grands départs, combien de temps vous avez dormi la veille. Et la plupart des gens disent « Oui, oui, effectivement, j'ai dû dormir 3-4 heures, mais monsieur, il y avait les valises à faire, vous comprenez. » Voilà. Donc effectivement, les gens font les valises une dernière fois, pour un dernier voyage, des fois. Et c'est catastrophique, parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de gens qui sont affectés. Donc 30% sur il y a moins de 3000 morts. Ça fait quand même beaucoup par jour. Et alors ça, c'est dû... Alors juste un petit mot, parce qu'on en a souvent fait l'expérience, mais je vais plutôt le dire sur les diapos suivantes. Alors il y avait des enquêtes qui ont été faites en France, et je vous en ai montré une, là encore, parce que c'est toujours Joël Pacro qui en était à l'origine. On a posé la question, donc, alors il n'y a pas le chiffre, mais je crois que c'est 2 ou 3 000 personnes. On les a interrogés par téléphone ou par internet, je ne sais plus. On leur demandait s'ils pensaient avoir eu un épisode de somnolence au volant. D'accord ? Eh bien, il y a quand même 17% qui répondent oui. D'accord ? Alors ça, c'est la majorité disent 0 fois par mois. Alors les gens qui disent, bon, faut quand même qu'il y en ait qui répondent oui ou parfois, et donc une fois, deux fois, trois fois, puis quatre fois par mois. Il y en a quand même 10%. Hein. Il y a quand même 10% des gens interrogés qui disent qu'une fois par semaine, eh ben, ils ont l'impression d'être somnolents. Mais attendez, ce n'est pas le plus grave. Quand on leur demande... Alors, il manque une diapo. Il me manque une diapo. Oui, voilà. Non, c'est ça là. Alors, ensuite, quand on leur demande... S'ils se sont déjà endormis au volant. Donc là, la question elle est beaucoup plus franche. Somnolence, ces gens disent oui, effectivement, il m'est arrivé d'être un petit peu fatigué au volant. Tout ça. Mais est-ce que vous êtes déjà endormi au volant ? Donc là aussi, il y a 95% de menteurs. Et puis, des honnêtes gens. Je plaisante, je vais vous expliquer pourquoi. Mais il y a effectivement des gens, quand même 6% de gens qui disent oui, effectivement, à l'aller ou au retour pour aller travailler. Ah ben voilà, c'est 800 conducteurs. Ils disent effectivement, il m'est arrivé de m'endormir au volant de ma voiture. Là, c'est quand même inquiétant. Hein. Une voiture sur 10, on en croise des voitures hein, le matin quand on va bosser. Donc, il faut faire attention. Donc, voilà. Donc, c'est des gens qui reconnaissent s'être endormis. Et c'est surtout des jeunes et surtout des hommes. Un peu comme moi, quoi. Alors, on va se dire, effectivement, bon, le travail, si c'est pour aller toujours faire 3 km, c'est pas grave. Ben, si, c'est grave, parce que la question était sur quel type de route vous êtes-il arrivé de vous endormir la dernière fois ? Autoroute à 4 voies. Là, on est beaucoup, hein, quand même. Départementale à 2 voies. Route secondaire, donc voilà, donc en ville, c'est pas la majorité hein, quand même. Hein. Et puis, c'est pas forcément des petits trajets, hein. Là aussi, c'est sur des longs trajets, hein. Donc ça peut être 20 km ou plus. Donc, ça, effectivement, c'est des données qu'il faut savoir garder en tête. Et donc, quand on leur demande mais pourquoi est-ce que vous êtes endormi au volant, et bien la plupart du temps, ils répondent tous j'ai pas assez dormi la nuit précédente, donc en plus, ils le savent. D'accord, on sait qu'effectivement, ils reconnaissent que quand on s'endort au volant, eh bien, vraisemblablement, il s'était passé quelque chose la nuit précédente, elle avait été un petit peu plus courte et qu'ils n'avaient pas assez dormi. Alors, je suis un peu méchant quand je me moque de ces gens-là, d'abord parce que je suis probablement dedans, et ensuite, c'est extrêmement difficile de savoir et de percevoir si on s'endort ou pas. Le cerveau, il est incapable de repérer le moment où il s'endort. Et ça, on fait tous les jours l'expérience au laboratoire du sommeil, où on enregistre des gens, notamment on leur demande de faire des siestes dans la journée, ils sont incapables de savoir s'ils se sont endormis ou pas. Enfin, c'est pas qu'ils sont incapables, c'est qu'ils se trompent souvent. Ils sont réellement incapables de deviner précisément s'ils sont endormis ou pas. Dans les deux sens, hein, ils nous disent non, je me suis pas endormi. Et nous, sur le tracé de l'ordinateur, on voit du beau sommeil. Et à l'inverse, ils nous disent oh oui, non, alors, quelle belle sieste. Et ben, il est resté réveillé une bonne partie de la sieste. Et donc, c'est extrêmement compliqué, mais ça, c'est neurophysiologiquement. Il faut qu'on arrive à inventer, nous, chercheurs, et c'est ce qu'on va essayer de faire au CHU, un moyen de correctement mesurer, de savoir un peu comment est-ce qu'on peut bien repérer la perception du sommeil. Et juste une petite anecdote que j'explique à mes patients, parce qu'en consultation, j'ai souvent des patients qui viennent me voir parce qu'ils dorment trop ou ils s'endorment un peu trop facilement. Globalement, pourquoi est-ce que le cerveau s'endort quand on est en voiture ? C'est en grande partie parce que la situation est extrêmement monotone. D'accord ? Et le cerveau, il est très avare, et il est très économe en énergie, et dès qu'il peut économiser un petit peu d'énergie, eh bien, il en met de côté, c'est-à-dire que dès qu'il peut diminuer le niveau de consommation d'oxygène, eh bien, il le fait. D'accord. Et dans sur autoroute ou sur route, sur un trajet départemental, quand la situation est très monotone, et bien quand c'est tout le temps globalement le même paysage, hein, une autoroute, une voie, avec le même bruit, les mêmes choses, et bien, à un moment donné, plouf, il se met un petit peu en veilleuse. Et ce qu'on a tous connu, ça nous est tous arrivé, y compris à moi aussi, je suis sûr que ça vous arrivait aussi à vous, j'ai toujours un moment comme ça quand on est sur autoroute, ou sur route, on se dit « Oh là là !» Je suis fatigué, je suis en train de m'endormir là. Eh bien là, on se trompe. C'est pas je suis en train de m'endormir qu'il faut se dire. Oups, je viens de me réveiller. D'accord ? C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le cerveau qui a détecté quelque chose de nouveau, qui a fait que, ah bah tiens, il faut peut-être réactiver l'éveil. Et donc à ce moment-là, on a l'impression de s'endormir, mais en fait, vraisemblablement, alors ça n'a pas été démontré, mais vraisemblablement, c'est probablement ce genre de choses qu'on va trouver. Donc voilà, donc ça, c'est des éléments extrêmement importants à prendre en compte quand on dort pas bien. Alors, enfin, quand on dort pas assez. Ça, c'est des expériences qui ont été faites où là, alors c'était un petit peu différent, on a pris des sujets, des volontaires sains, et puis on les a suivis pendant 15 jours, donc c'est une étude énorme, hein, 15 jours, et on a mesuré quelques performances, il doit y avoir quelque part. Je crois que le rond, c'est le petit test de réaction de test que je vous ai donné tout à l'heure, dont je vous parlais tout à l'heure, pendant ces 14 jours, et il y a différents groupes. Alors il y a un groupe où on les a quasiment empêchés de dormir pendant 3 jours. D'accord. Vous voyez que les performances, elles sont à 0, là, le 0 c'est la valeur de base. Au bout de 4 jours, elles s'effondrent. Hein. Donc elle s'effondre. Une nuit blanche, deux nuits blanches, trois nuits blanches. Catastrophe. D'accord. Et puis il y a des sujets qu'on a laissé dormir 8 heures de sommeil. D'accord. 8 heures de sommeil, et ben, hop, les performances, elles augmentent. Pour ceux donc qui devaient être à 6-7 heures juste avant, donc ils sont contents de se retrouver 8 heures au lit pendant 15 jours, et donc les performances, elles s'améliorent. Les carrés, je crois que c'est, je ne sais plus, ça doit être 6 heures de sommeil. Et puis 4 heures de sommeil par nuit, c'est la courbe rouge. Et bien vous voyez que 4 heures de sommeil par nuit, je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens qui font ça assez régulièrement avant les vacances ou quand il y a un peu le feu au boulot. Et bien, vous voyez qu'on tient à peu près pendant 3-4 jours. Et puis, au bout d'un cinquième jour, clac, ça flanche. D'accord, et on rejoint des zones extrêmement grises au bout de 6 jours. Ce que je veux dire par là, c'est que le manque de sommeil ou la restriction de sommeil, quand on ne dort pas assez pendant plusieurs jours, elle s'accumule, la dette s'accumule. Et il y avait un conférencier aux États-Unis qui avait dit, qui avait employé une image très intéressante, c'est que globalement, il faut imaginer la dette de sommeil, donc le manque de sommeil, comme un pavé que vous mettez le soir dans un sac à dos et que la nuit, normalement, on vous enlève. D'accord, bah, sauf que quand on ne vous l'enlève pas, le lendemain, quand vous réveillez, on vous en met un deuxième. D'accord. Et donc, chaque jour, vous rajoutez un pavé dans votre dos. Et donc, à la fin, effectivement, au bout de 3-4 jours, bah, vous avez deux ou trois pavés dans le dos et donc vous êtes beaucoup plus fatigué. Le manque de sommeil est cumulatif, ça s'accumule. D'accord. Après, il faut plusieurs nuits pour pouvoir récupérer. Alors, donc, quand on dort pas beaucoup, effectivement, vous avez vu que les performances se dégradent. Qu'est-ce qui se passe quand on fait l'inverse et quand on demande à des sujets sains, quand on les force à dormir plus? Il y a une très jolie étude qui a été faite, c'est des basketteurs américains. Des basketteurs américains, où ils ont obligé à dormir 10 heures par nuit. Les basketteurs. Basketteurs, grands, beaux garçons. Ils avaient quoi, 22-25 ans. Ils faisaient la bringue la plupart du temps. Il y avait plein de compétitions. Enfin, vous imaginez le milieu. Alors, ils n'ont pas été très contents, parce que les expérimentateurs leur ont dit, voilà, sur 50 jours, donc c'est relativement long, vous forcez à dormir au moins 10 heures par nuit, à être 10 heures dans le noir. Donc, on avait moyen de vérifier, ils avaient des petites actimétries pour vérifier. Et ça, c'est le temps au sprint. Le temps au sprint, d'accord, en fonction de la durée de l'expérience. Et vous voyez que le sprint, donc c'est à peu près 100 mètres qu'ils faisaient. Eh bien, il faisait 17-18 secondes en moyenne au départ. Donc ça, c'est... Et à la fin des 50 jours, ils ont amélioré leur performance simplement en dormant plus, donc pas en s'entraînant plus, hein, simplement en dormant plus. Ils ont fait ça. Ils ont arrivé à gagner une seconde sur 100 mètres. C'est énorme. Hein. Et ils ont fait la même chose chez ces athlètes-là, mais il n'y a pas d'image, mais c'est joli, sur les paniers à 3 points. Pareil. Ils ont augmenté leur score par rapport à ceux qu'ils ont laissés, parce qu'il y avait un autre groupe qui restait complètement stable, qui, eux, menaient la vie de jeunes athlètes comme ils voulaient. Et donc, effectivement, ils ont eu des performances sportives nettement plus améliorées quand on augmentait leur temps de sommeil. Je trouvais cette expérience très, très amusante. Elle est peu citée, elle est peu connue dans le monde, mais elle est très, très jolie. Et je pense qu'effectivement, ça montre bien que quand on dort plus, eh bien, on peut améliorer ses performances simplement en dormant une heure de plus. Alors, si on revient sur les effets de la privation aiguë de sommeil, vous imaginez bien que si on a des accidents de voiture, c'est que le cerveau ne fonctionne pas bien. Et globalement, on a parlé de l'allongement du temps de réaction. Je pourrais vous dire exactement la même chose sur les capacités de mémorisation. Le sommeil, ça sert à mémoriser. Et donc, effectivement, quand on ne dort pas assez, quand on se couche trop tard et qu'on se lève trop tôt, quand on n'a pas s'autorise pas à suffisamment dormir, eh bien, on a des problèmes pour mémoriser. La mémoire de travail, c'est la petite mémoire vive qui vous permet de vous souvenir un petit peu de ce qui s'est passé dans les quelques minutes précédentes. Et puis, on a aussi du mal à maintenir une attention soutenue. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est parfois un petit peu difficile. Alors, pas cette conf-là, parce qu'elle est vraiment passionnante, mais des fois, il y a peut-être d'autres confs, pas l'Espace Mendès France non plus, mais dans d'autres confs, dans d'autres associations qui sont moins sympas. Quand on ne dort pas assez, c'est vraiment dur de rester très, très vigilant. Alors, donc ça, C'est effectivement, donc ça c'est des petits tests qui sont faits, vous imaginez bien le chercheur faire des petits tests de mémorisation sur des mots, on est quand même assez loin de la vraie vie, et donc ils se sont amusés à faire des choses un peu plus fines, notamment les Américains, à essayer de voir si notamment par exemple sur la perception des émotions. Est-ce que quand on manque de sommeil, est-ce qu'on perçoit différemment les émotions ? Et pour cela, donc, je vous montre une petite étude qui, moi, m'a bien plu, où ils avaient pris deux groupes. Donc, il y a un groupe ici où ils vont les priver de sommeil, et puis un groupe qu'on appelle un groupe contrôle, donc où ils vont rien leur faire. Ce groupe-là, donc ici, sleep deprivation, c'est privation de sommeil, donc ça, c'est une nuit blanche. D'accord ? Et puis, ils font un premier test, et puis un deuxième test. Et donc, ici, ils comparent les performances de ces groupes-là. Là. Ils ont utilisé des petites images comme ça, calibrées, où on voit un visage là, qui montre des émotions relativement neutres et puis des émotions plus marquées. Alors, il y a des émotions, il y avait les quatre grandes émotions, la colère, la joie, qu'est-ce qu'il y avait, la colère, la joie, oui, peut-être bien la tristesse, et puis il y en avait une quatrième, je ne sais plus ce que c'était, la peur. Et puis, demander aux gens, voilà, est-ce que vous trouvez que ce visage-là, est-ce que vous diriez qu'il est joyeux, pas joyeux, tout ça. Et donc, voici les résultats du groupe qui n'a pas dormi. Vous leur montrez ça. Ils vous disent, j'ai vu ça. D'accord ? Et donc, effectivement, les bonhommes qui n'ont pas réveillé, d'accord ? Vous leur montrez des visages plutôt gays, je trouve, hein ? Et bien lui, le cerveau intègre et dit non, les visages là, ils sont comme ça. Beaucoup plus neutres, beaucoup plus menaçants. Et effectivement, ça a été reproduit dans d'autres études. Le manque de sommeil altère la perception des émotions sur le visage des autres. D'accord. Et donc ça, c'est quelque chose qui effectivement n'était pas très bien connu avant, mais ça a été reproduit. Et donc ce sont des données assez solides. Alors, je n'ai pas de belles images comme précédemment, mais c'est aussi vrai dans l'autre sens, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas dormi, qui n'ont pas bien dormi, qui n'ont pas assez dormi, expriment beaucoup moins d'émotions. D'accord ? C'est-à-dire que, effectivement, dans les mêmes conditions, alors là, je crois qu'on leur montrait, alors ils avaient fait ça chez des enfants, ils avaient montré des dessins animés à des enfants. Et effectivement, ceux qui avaient dormi, ils rigolaient, ils étaient vachement contents, et puis ceux qui n'avaient pas bien dormi, pas beaucoup dormi la nuit précédente, Ouais, rigolo. Enfin, il y avait vraiment une vraie différence d'expression des émotions, donc y compris par ceux qui n'avaient pas dormi. Donc vous imaginez que si personne ne dort assez, celui qui n'a pas beaucoup dormi, il ne comprend pas l'expression du visage de celui qui n'a pas non plus dormi, qui exprime encore moins. D'accord ? Ça commence à devenir très compliqué. Voilà. Et donc effectivement, il y a une diminution significative, complètement inconsciente, de l'expression. Des visages chez les gens qui manquent de sommeil. Alors, donc ça, c'était une des premières études qui ont montré qu'effectivement, le manque de sommeil pouvait altérer les émotions. Ils ont été un petit peu plus loin et ils se sont demandé si, quand on manquait de sommeil, est-ce qu'on prenait plus de risques qu'avec sommeil, que quand on dormait suffisamment, là aussi. Ils avaient fait une étude, donc ils avaient pris deux sujets, un groupe de sujets, ils avaient privé les gens de sommeil, ils leur avaient fait passer, ils ont des petits tests un peu calibrés de cartes, où quand ils gagnent, on leur donne des sous. Enfin, il y a quatre plots de cartes, ils ne savent pas du tout ce qu'il y a, mais ils arrivent à deviner qu'il y a des paquets où ils peuvent gagner beaucoup. Beaucoup, mais pas souvent, et d'autres, il y a beaucoup, on peut gagner beaucoup et pas souvent, on peut gagner un peu, mais très souvent, et on peut perdre un peu, mais pas souvent, et beaucoup, et pas souvent. D'accord ? On demandait aux gens de tirer des cartes en disant, ben voilà, on vous donnera à la fin du jeu ce que vous avez gagné. Eh bien, ceux qui sont privés de sommeil, ils sont très, très attirés par le paquet où on gagne beaucoup tout de suite. Et puis surtout, ils étaient beaucoup moins sensibles aux performances, aux conséquences négatives des pertes. C'est-à-dire qu'ils disaient, ouais, il négligeait complètement, il disait voilà, bah, tant pis, je me referai la prochaine fois. Et donc, il préférait aussi les jeux à forte valeur de gain plutôt que les jeux offrant une grande probabilité de gain. C'est-à-dire qu'il préférait piocher dans le paquet où il gagnait beaucoup, rarement, que dans le paquet où il gagnait moins, mais beaucoup plus régulièrement. Et donc, ça, vraisemblablement, alors que les sujets qui avaient dormi une quantité suffisante, eh bien, ils gagnaient beaucoup plus de fric, hein, globalement. Alors, c'est très amusant parce qu'à la suite de cette étude-là, il y a eu un éditorial dans le Wall Street Journal où ils se sont dit, mais est-ce que nos traders à la bourse, ils ne seraient pas un peu en manque de sommeil ? Est-ce qu'il ne faudrait pas les coucher un peu plus tôt ? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas... parce que ce sont tous des jeunes hommes. Je voulais retrouver la photo et je ne l'ai pas retrouvée sur mon ordinateur. Bon, je voulais vous montrer, mais c'est vraiment marrant que le Wall Street Journal s'intéresse au sommeil. Je me dis, tiens, le sommeil est vraiment passé dans la vie courante. Alors, il y a d'autres gens qui s'intéressent beaucoup à l'effet de la privation de sommeil, c'est les militaires. D'accord, parce que les militaires en opération, eux, ils ne peuvent pas beaucoup dormir. Et donc, il y a quelques et les militaires américains, bien sûr, qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opérations, qui sont donc s'intéressent beaucoup aux performances de leurs cadres. Et donc, ils font beaucoup d'études sur la privation de sommeil. Et notamment, ils se sont aperçus que le manque de sommeil rendait beaucoup plus difficile l'appréciation d'une situation difficile, d'apprécier une situation instable, d'estimer le risque d'un choix. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Ça a été fait chez les sujets sains aussi. Anticiper les différentes conséquences possibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement d'effet de la privation de sommeil sur le test de temps de réaction, qui est trop simple, mais dès qu'on demande au cerveau d'être un petit peu imaginatif, de prendre en compte différents éléments, de ne pas se laisser distraire par d'autres choses, là par contre, quand les gens ont moins dormi, les performances diminuent. Et ça inquiète beaucoup les militaires, parce qu'effectivement, c'est source de pertes. Et donc, effectivement, voilà, là, vous avez tous les items qui avaient été relevés comme affectés par le manque de sommeil. Et donc, se souvenir d'événements, développer, poursuivre et réviser ses plans. Ça, le cerveau, il fait beaucoup moins bien. Contrôler son humeur et retenir ses élans. Ça, je vous en ai donné une belle illustration avec les visages que l'on juge moins bien. Estimer ses performances, c'est pareil. Communiquer efficacement. Et ne pas prêter attention aux éléments distracteurs, ça aussi, quand on manque de sommeil, ces sujets qui étaient soldats étaient beaucoup plus affectés par ça. Et effectivement, ça correspond bien aussi, probablement, à ce qui se passe au volant de ma voiture quand je prends le volant après une nuit avec un sommeil un peu court. J'ai très probablement du mal à estimer mes performances. Je me dis que finalement, j'ai envie d'arriver plus qu'autre chose, on verra après. J'ai du mal à anticiper l'éventail des conséquences possibles. Donc, ça ressemble un petit peu à tout ça. Alors, ça, je vais passer parce que c'était moins intéressant. Toujours sur le manque de sommeil, je parlais des professionnels de santé qui travaillent la nuit. Et les Américains, là aussi, ont été très, très attentifs à essayer de voir comment travailler, comment opérer les chirurgiens le lendemain d'une nuit de garde. Un conseil, demandez à votre chirurgien avant qu'il vous opère s'il a bien dormi la nuit précédente. Parce que, en tout cas pour les internes, enfin, c'est pareil pour les patrons, et je sais de quoi je parle, et il y avait deux groupes d'internes, donc un groupe d'internes, donc d'étudiants en médecine, de docteurs, qui dormaient normalement, et puis d'autres qui étaient de garde, et bien globalement, ceux qui sont qui manquent de sommeil, ils font 35% d'erreurs préjudiciables et ils font 57% en plus d'erreurs non interceptées. D'accord ? Donc il y a réellement une véritable diminution des performances lors de la privation de sommeil. Il y a même maintenant des études qui s'amusent, qui essaient de tester l'agilité pour recoudre pour un chirurgien et s'apercevaient qu'effectivement, il recousait beaucoup moins bien et beaucoup moins vite après avoir été de garde. Alors, ça, c'était les conséquences. On était dans les conséquences de privation de sommeil assez aiguës, finalement, chez des sujets qui n'avaient pas de problème de maladie. On va aborder maintenant les conséquences à un peu plus long terme. Est-ce que, finalement, c'est dangereux de restreindre un petit peu son sommeil et de pas beaucoup dormir ? La réponse, évidemment, vous l'avez deviné, c'est oui. Et rapidement sur quelques pathologies courantes dont on sait à peu près bien maintenant que c'est le cas. En tout cas, donc, globalement, toutes les expériences qui ont été faites, toutes les études vont dans le même sens. Et il semble bien exister, je crois que maintenant on peut le dire, qu'une durée courte de sommeil, quand elle se maintient sur plusieurs années, favorise le diabète. En effet, ça a été montré chez des volontaires sains. Là aussi, on a fait dormir des volontaires sains pendant 4 heures, 5 nuits de suite, et on a mesuré la tolérance au glucose. C'est-à-dire qu'on leur injecte du glucose et puis on regarde si l'insuline monte. Vous savez, l'insuline, c'est l'hormone qui est chargée de contrôler la glycémie. Et donc, effectivement, elle va monter en réaction à une injection de glucose. Donc ça, c'est assez calibré. On injecte un carré de sucre et on regarde ce qui se passe sur l'insuline. Et on s'aperçoit que quand les gens sont privés de sommeil, eh bien, ce pic d'insuline, cette sécrétion d'insuline, elle est moindre que lorsque les sujets ont bien dormi. Donc ça, c'était des études qui sont assez solides hein, maintenant chez les volontaires sains. Il y en a eu plusieurs. Et puis, quand on a été interrogé des patients qui souffraient de diabétiques, eh bien, on s'est aperçu que chez ces patients-là, il y avait quand même beaucoup de gens qui dormaient moins de 6 heures par rapport à d'autres sujets. Et à l'inversement, ils ont pris des gens, ce qui est le résultat de cette étude, pardon, c'est que quand on interroge, là aussi par questionnaire, par internet ou par téléphone, des gens qui dorment moins de 6 heures et plus de 9 heures, eh bien on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de diabète chez les gens qui dorment, qui disent, qui avouent dormir moins de 6 heures par nuit. D'accord ? Et donc, on se dit qu'effectivement, vraisemblablement, ce sont des données qui sont assez solides. Alors, autre problème de santé très inquiétant pour les médecins et l'autorité publique dans les années qui viennent, le surpoids et l'obésité. Eh bien, là aussi, lorsqu'on dort pas beaucoup, lorsqu'on manque de sommeil, on bouffe plus. Ça, ma grand-mère me l'avait déjà dit, mais bon, les chercheurs l'ont confirmé. Et effectivement, quand un volontaire sain est privé de sommeil, eh bien, il mange 22% de plus. Et en plus, il préfère largement les aliments hypercaloriques. C'est-à-dire que quand on manque de sommeil, c'est pas une petite salade, une petite laitue bien fraîche qu'on va se faire, c'est plutôt un Snickers, un paquet de chips et choses comme ça. Et ça, c'est assez spécifique. Hein. C'est très curieux comme le cerveau réagit à la privation de sommeil. Le cerveau va être poussé à consommer des aliments beaucoup plus caloriques, puisque, effectivement, vous voyez que c'est plus de 200 calories. Là, il y a 5 nuits de 4 heures au lit, et là, 5 nuits de sommeil habituel, donc 7h38. D'accord, la différence, c'est 300 calories. C'est pas mal, hein, 300 calories de différence en tout. Et l'augmentation donc, de calories ingérées, c'est pas une réponse à plus d'activité, puisque le nombre de calories dépensé, il est quasiment identique, où il y a simplement 22 kilocalories de différence. Donc c'est réellement l'impact du manque de sommeil sur les choix décisionnels. Hein, on est plus attiré vers les repas, vers les aliments gras, les aliments très sucrés, lorsqu'on manque de sommeil. Alors j'aime beaucoup cette petite image qui dit dormez-le, mettez-le dehors en dormant, enfin, ou soignez-le en dormant, donc d'un patient obèse qui dort pas beaucoup. Alors, pour finir, le sommeil a aussi d'autres rôles, et en particulier sur le système cardiovasculaire. Là, les données sont encore un petit peu préliminaires, je suis moins convaincu par toutes ces études, mais vraisemblablement, vous avez ici donc une mesure sur 24 heures, donc là, il est midi, et puis là, il est midi, donc c'est la mesure de la pression artérielle. Vous savez qu'il y a deux pressions artérielles, une haute, une basse. Hein, la pression, ce qu'on appelle la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique. D'accord ? Donc, quand il est midi, les gens sont éveillés. Vous voyez que la petite sieste, eh bien, pendant la sieste, pendant le sommeil, la tension artérielle diminue et les pulsations cardiaques diminuent aussi. D'accord ? C'est aussi vrai durant la nuit. Ça, c'est extrêmement marqué. Hein, durant la nuit, la tension artérielle baisse. Hein, elle est aux alentours de 95. Ça, c'est complètement physiologique. Voilà. Et le pouls aussi diminue grandement durant la nuit. D'accord ? Le système cardiaque, l'ensemble de l'organisme se repose, se détend, et la consommation d'énergie par le cœur, elle est là aussi extrêmement réduite durant la nuit. Et puis le matin, bien sûr, on se réveille. Et donc, effectivement, on peut tout à fait imaginer que lorsque on réduit cette période de repos cardiovasculaire, eh bien, ça provoque des maladies. Et c'est effectivement ce qui est le cas. Il y a des gens qui sont en train de montrer que les gens qui dorment pas assez, qui dorment de manière trop courte, eh bien, pourraient avoir plus d'hypertension artérielle que les autres. Hein, il me dirait, le seuil, c'est moins de 6 heures, semble-t-il, serait associé à une hypertension artérielle. C'est pareil pour lorsqu'on fait des études longitudinales et qu'on suit des gens pendant plusieurs années, en leur demandant toujours combien de temps est-ce que vous dormez approximativement. Eh bien, là aussi, à 5 ans, on s'aperçoit que les gens qui disaient dormir moins de 5 heures, eh bien, ils avaient plus d'hypertension artérielle 5 ans après. Les données sont moins convaincantes pour les patients insomniaques qui, eux, disent « j'ai du mal à dormir » parce que c'est un peu leur problème. Eh bien, ils disent, il semblerait que ces patients insomniaques pourraient avoir plus de maladies cardiovasculaires, dont des hypertonies, dont des hypertensions artérielles, que les gens qui disent qu'ils n'ont pas de problème de sommeil. Ça, c'est un petit peu moins solide parce que, malheureusement, les patients qui ont des problèmes pour trouver le sommeil, ils ont aussi d'autres problèmes de santé. Et donc, c'est un peu plus... c'est pas tout à fait certain. Alors, et vous ? Est-ce que vous manquez de sommeil ? Manifestement pas, parce que vous êtes tous réveillés, il est presque 22h, vous êtes tous encore vigiles et alertes. Donc, soit j'ai été passionnant, soit vous dormez correctement, et je vous félicite. Comment savoir est-ce qu'on manque de sommeil ? Eh bien, si vous répondez oui à une de ces questions, je le sens mal pour vous. Est-ce qu'un repas un peu lourd, un petit verre de vin, une pièce un petit peu chaude, ou une réunion ou un livre ennuyeux vous rendent somnolent ? Oui ? Ordonnance de sommeil. Le soir, est-ce que vous endormez immédiatement ? Est-ce que vous avez besoin d'une sonnerie pour vous réveiller le matin ou est-ce que vous vous réveillez spontanément après votre bonne nuit ? Oui, les marchands de réveil font des bénéfices astronomiques. Est-ce que vous utilisez la fonction snooze ? Vous savez, la fonction qui répète oui ? Aïe, 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 vous ne dormez pas assez. Et surtout le week-end, le samedi matin, est-ce que vous dormez plus de 2 heures par rapport à vos horaires habituels ? Et voilà. Bien, donc 100% des gens qui sont ici manquent de sommeil. Et ceux qui ne se sont pas prononcés, c'est qu'ils dorment déjà. Et donc, ils manquent aussi de sommeil. Voilà. Donc, effectivement, le manque de sommeil nuit à la santé. Ce n'est pas bon pour le fonctionnement cérébral, on l'a vu. Ça peut provoquer de la somnolence, des accidents de voiture, des mauvais choix, une tendance à sous-estimer ses performances, à sous-estimer les risques. Et ça, c'est probablement très, très vrai aussi en termes de conduite automobile. Ça favorise le diabète, ça favorise l'obésité, ça aussi, on le sait. Ça pourrait favoriser l'hypertension artérielle. Donc, je vous rappelle les nombres d'heures recommandées par la faculté. Si vous voulez être comme ça pour monsieur ou être comme ça pour madame, eh bien, il vous faut dormir pour un adulte environ 8 heures. Et pour un adulte neurophysiologique, c'est aussi 8 heures. Et donc, il va être temps d'aller me coucher. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis encore là de longues minutes pour répondre à vos questions et préciser si je n'ai pas été clair.
Bonsoir. Alors, j'aurais voulu savoir, d'après l'exposé que vous venez de faire, qu'en est-il des gens qui, pour une raison ou pour une autre, sont donc appelés à être en veille, donc la nuit, et qui pour autant ont une durée de sommeil, je dirais, correcte, mais sur la journée. Que se passe-t-il pour eux ? Est-ce que finalement c'est la même chose ou est-ce que finalement... Être éveillé la nuit peut aussi être préjudiciable.
Alors, c'est une excellente question. Alors, je ne dis pas ça parce que je n'ai pas la réponse. Non, c'est une bonne question parce que la réponse, c'est oui et non. C'est-à-dire que globalement, effectivement, on peut dormir 8 heures, faire ces 8 heures que l'on aurait fait la nuit, on peut les faire dans la journée. Donc effectivement, pour ces personnes-là, il faut dormir, il faut essayer de dormir 8 heures pour la journée, c'est indispensable, il ne faut pas se priver de sommeil, ça c'est clair. Donc la réponse c'est oui, il faut dormir la nuit. Le versant non est le suivant, c'est que quand même, dormir au moment où l'horloge interne dit qu'il faut se réveiller, ça a quand même des conséquences, c'est-à-dire que la qualité du sommeil n'est pas la même. Et effectivement, par exemple, le matin, je ne sais pas si vous l'avez vu sur l'hypnogramme, je suis passé un petit peu vite, mais vous savez que le matin, on fait beaucoup plus de sommeil paradoxal, beaucoup plus de sommeil de rêve le matin que de sommeil profond. Et donc, effectivement, quand les gens se couchent, par exemple, à 7 heures du matin et se réveillent à 12, à midi ou après, ou à 13 heures, eh bien, le cerveau, l'horloge interne va commander au cerveau de faire beaucoup de sommeil de rêve et pas tellement de sommeil profond pour se restaurer. Donc, il faut que ces gens-là dorment effectivement dans la journée, c'est indispensable, mais il faut qu'ils gardent en tête que c'est pas non plus, que c'est un petit peu antinaturel, que c'est un peu contre nature et que ça expose à d'autres problèmes de santé. Et en particulier, en plus de ceux que j'ai mentionnés ici, sur lesquels je me suis attardé, on commence à se demander si effectivement ça ne peut pas donner des problèmes de sommeil qui ne pourraient pas faciliter des maladies comme la dépression. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément bon pour le moral de dormir en décalé, quand on fait ça sur plusieurs mois. Donc voilà, donc oui, il faut dormir, j'ai envie de dire que c'est assez équivalent, il faut, et c'est une bonne chose de dormir, de toute façon c'est indispensable pour ces gens-là, ils ne peuvent pas faire autrement, mais il faut qu'ils gardent en tête qu'effectivement, c'est la qualité du sommeil, si la quantité est là, la qualité n'est peut-être pas forcément là, parce que le cerveau il n'est pas programmé pour dormir dans la journée, l'horloge interne est là pour essayer de pousser le maintien du sommeil la nuit. Ça peut favoriser les dépressions, puis après ça peut être un petit peu difficile pour ces gens-là de retourner, ou quand les gens travaillent une fois de nuit, ou une fois de jour, une fois de nuit, une fois de jour, c'est plus difficile de retrouver un cycle normal de nuit. Et moi je vois régulièrement en consultation des gens qui viennent me voir, voilà, j'ai fait pendant où je fais encore, voilà, je travaille de nuit, je suis infirmière et je travaille de nuit, ou je suis conducteur à la SNCF et il m'arrive de conduire, de travailler de nuit. Pendant les vacances, je n'arrive pas bien à retrouver le sommeil. Eh bien oui, c'est que le cerveau, il a besoin de, précisément d'avoir une espèce de régularité et de dormir la nuit. Donc ça peut modifier et donc ça peut être source d'insomnie. Donc voilà, réponse un peu complexe, mais je crois que c'est le cas.
Est-ce que vous avez l'équivalent de l'étude qui a été faite sur ceux qui faisaient du basket pour, parce que l'augmentation de sommeil, ça permettait d'augmenter leur performance sportive. Oui. Est-ce qu'il y a la même chose pour les performances cognitives ?
Alors, il y a la même chose sur les performances cognitives, mais pas chez les basketteurs. Non, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, là, c'est vache. Non, ça a été fait chez des courts dormeurs, chez des gens qui disent oui, moi facile, 5 heures de nuit, ça me va. Et donc ils ont pris ces courts dormeurs et leur ont dit ah oui, vous faites les malins en disant voilà, 5 heures par nuit, super cool. Hein, et les gens leur ont dit mais voyons ce qui se passe et voyons comment vous comportez, quelle performance vous avez quand vous dormez, quand on vous oblige à dormir 10 heures par nuit. Alors la première surprise, c'est qu'effectivement, ils sont mis à dormir 10 heures par nuit. Donc là, ils ont dit tiens, vous voyez que court dormeur, mais 10 heures de sommeil, c'est pas mal. Et là, sur ces performances, alors je me souviens plus des tests, mais effectivement, sur des petits tests de mémorisation ou de rappel, comme ça, effectivement, les performances se sont améliorées avec l'augmentation de la quantité de sommeil. Absolument. Donc, c'était pas des sportifs, c'était pas des sujets vraiment sains, c'était des sujets courts dormeurs. L'idée, c'était de voir si, effectivement, est-ce que les courts dormeurs, est-ce qu'ils ils dormaient peu parce que, finalement, ils n'avaient pas besoin de plus, qu'ils pouvaient être super performants avec 5 heures par nuit, ou est-ce que, quand ils dormaient 10 heures, est-ce qu'ils pouvaient être encore meilleurs? Et la réponse, c'est quand ils dorment 10 heures, ils sont encore meilleurs.
Et il n'y a pas ça pour les dormeurs, enfin les gros dormeurs, ceux qui dorment 8 heures par nuit, ce qui est recommandé?
Non, sur des volontaires, non, pas à ma connaissance, mais je pourrais regarder. Pas à ma connaissance comme ça. on éteint la lumière. Véridique. Non, mais c'est absolument ça. Hein. C'est dans ces études-là, ils éteignaient la lumière à 8h, à 20h, ils la rallumaient à 8h. Quand vous êtes dans le noir, à 8h, vous ne pouvez pas lire, vous ne pouvez pas téléphoner, vous ne pouvez pas rien faire. Ben, vous êtes dans le lit, au bout d'une heure, vous vous endormez. Oui, effectivement.
Oui, vous parliez de sommeil de courte durée. Pourriez-vous nous parler des effets des micro-siestes et du stade sophronique en termes de récupération ou de performance?
Alors, les micro-siestes, effectivement, ça peut être une bonne contre-mesure au manque de sommeil. C'est-à-dire qu'effectivement, on le préconise quand oui, les gens ils peuvent pas faire autrement, ils peuvent dormir que 4-5 heures la nuit, parce que moi je sais pas pour des raisons X ou Y, les gens peuvent avoir à un moment donné dans la journée ressentir un besoin de dormir très important. Alors les micro-siestes, effectivement, c'est une bonne alternative. Il s'agit de se mettre dans une position relativement pas trop confortable pour que la sieste dure moins de 30 minutes. Alors ça, c'est les micro-siestes. Les micro-siestes, c'est des siestes qui durent 20-30 minutes. Et ça, effectivement, elles sont restauratrices. Mais il ne faut pas qu'elles durent plus, parce que quand elles durent plus, en fait, le cerveau tombe dans le sommeil profond. Et là, le réveil est plus difficile. Et donc, en fait, au bout de 30 minutes, on ne fait que du sommeil léger. Et donc, c'est suffisamment léger pour résorber un petit peu la fatigue et la somnolence. Sans pour autant tomber dans le sommeil profond et donc avoir des difficultés au réveil. Et donc, effectivement, on peut recommander ce genre de choses. Alors, il faut faire attention parce que il faut l'utiliser avec modération, parce que quand on a besoin de faire une sieste tous les jours pendant plusieurs années, c'est peut-être qu'il y a une maladie du sommeil, ou de toute façon, ça ne va pas. On ne sait pas encore bien si la sieste empêche. On sait que ça peut empêcher des accidents de voiture, ça c'est clair. Si vous avez dormi 4 heures la nuit pour faire les bagages, ou pour X ou Y, j'ai plein d'autres raisons, et qu'au volant vous sentez que ça ne va pas bien, que vous êtes vraiment fatigué, une petite sieste de 30 minutes, ça va vous permettre effectivement de remettre vos performances à hauteur pour 2 heures. Donc c'est recommandé. Il ne faut pas que ça soit chronique, il ne faut pas la faire tous les jours, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, parce que là, ça veut peut-être dire qu'effectivement, soit il y a une maladie du sommeil, soit vraiment le manque de sommeil est chronique, et qu'à ce moment-là, eh ben, il faut se coucher plus tôt, il faut allonger son temps alloué au sommeil. Voilà. Mais donc, effectivement, il y a des gens... Alors après, tout le monde ne peut pas faire la sieste. Hein, tous les cerveaux ne sont pas capables de faire la sieste. Il y a des gens qui sont complètement incapables de faire la sieste. Ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas. Au contraire, il y en a d'autres qui, vous en connaissez certainement dans votre entourage, des gens qui disent « Moi, je dors n'importe où, je décide quand je veux dormir, je suis dans le train, j'ai 2 heures à attendre, pouf, je dors, et puis vous le voyez sous vos yeux, hop, il ferme les yeux, il dort. » Donc il y a des gens qui ont une facilité comme ça pour tomber dans le sommeil, et puis pour se réveiller frais. Et d'autres, par contre, qui sont complètement incapables, soit d'endormir, il y a des gens qui sont tout à fait capables de s'endormir pour 2 heures. Ou 3 heures, ou 4 heures. Là, quand ils se réveillent, ils ont des courbatures partout, ils ne sont pas bien, ils sont de mauvaise humeur. Voilà. Donc ces gens-là aussi, en règle générale, ils évitent de faire la sieste. C'est très variable en fonction des sujets.
Ouais. Merci, mais dans ma question, il y avait aussi la notion de stade sophronique. Est-ce qu'il y a des corrélations entre les deux ou pas du tout?
Alors, je ne connais pas bien, je ne sais pas très bien ce que c'est que les stades de sophroïque.
Sophronique, c'est-à-dire
sophronique.
C'est les sophrologues qui utilisent beaucoup cette notion-là de manière à tenter d'améliorer la notion de récupération, voire de performance parfois.
D'accord. Ça peut y ressembler. Hein. Une sieste, elle n'est pas obligée de faire pour être récupératrice. Il faut, pour qu'elle soit récupératrice, les études ont montré qu'il faut qu'elle fasse, en règle générale, au moins 10 minutes. Mais ça peut être, au bout de 10 minutes, c'est du sommeil extrêmement léger. Hein. Donc, 10 minutes de sommeil ou de détente, de repos neurosensoriel peuvent suffire à restaurer les performances brièvement dans les heures qui suivent. Hein. Ça ne fera pas de vous un super intelligent sur les prochaines... Ça ne va pas modifier votre cerveau en profondeur, mais ça va permettre effectivement d'améliorer vos performances dans les heures qui suivent. Ça, c'est clair. Ça ressemble un petit peu au temps calme des enfants. Quand ils sont à la maternelle, la maîtresse a dit de faire un temps calme. Les gamins, ils n'ont pas l'impression de dormir, mais ils se reposent, ils se détendent, le cerveau se repose, et effectivement, ça peut améliorer les performances dans les minutes ou les heures qui suivent. Et je pense que le stade sophronique doit être similaire à ce genre de choses, de diminution du niveau d'éveil et peut-être de petit sommeil ou de sommeil très léger que le cerveau fait pendant quelques minutes.
Bonsoir. Donc, si j'ai bien compris, sommeil égale inactivité physique. Qu'en est-il des situations où il y a une activité physique, je pense à des marches en groupe suivies, où on a un élément devant qui va être, lui, attentif, et des éléments derrière qui s'accrochent au sac du précédent et qui sont en repos.
Vous ne parlez pas des somnambules, hein ?
Non, je parle des situations militaires.
D'accord. Là aussi, les gens sont. Nous ne sommes pas égaux devant le sommeil. Il y a des gens effectivement qui peuvent se maintenir éveillés tout seuls, qui arrivent à rester bien vigilants, bien à lutter contre ce sommeil. On sait qu'il y a plusieurs profils. Il y a des gens qui sont résistants à la privation de sommeil. Et à l'inverse, il y a des gens qui ne sont pas du tout résistants à la privation de sommeil. Et c'est la première chose. La deuxième chose, on sait qu'effectivement, il y a certaines personnes qui peuvent se réveiller en marchant et d'autres pour lesquelles l'activité physique, la marche, n'a aucun effet, ça ne les réveille pas. Effectivement, ils restent dans le brouillard ou effectivement à suivre, à s'accrocher au sac à dos, tout ça. Donc effectivement, là, les sujets et les personnes sont très différentes les unes des autres. Ça a été très, très peu étudié. On sait que globalement, l'activité physique réveille. Ça ne réveille pas tout le monde de la même façon. Mais globalement, si vous faites 2 heures, ou si vous faites un footing, ou si vous faites un match de foot, par exemple, les footballeurs dorment très, très mal après les matchs. Parce qu'effectivement, l'activité physique empêche, ça réveille, ça empêche l'endormissement, ça retarde l'endormissement de plusieurs heures. Et donc à l'inverse, bon, les gens qui ont du mal à dormir, ils savent très bien, les insomniaques savent très bien que effectivement quand ils font du sport en fin de journée ou quand on leur dit d'arrêter de faire du sport dans la journée, eh bien ils s'endorment mieux. Donc effectivement, l'activité physique et la marche en particulier a un effet éveillant, mais pas la même intensité chez tout le monde.
Bonsoir. Bonsoir. Au niveau de la caféine, pourquoi il y a des différences entre les personnes ? Il y en a qui ne ça gêne pas de boire un café avant de dormir le soir, et d'autres à midi, c'est le dernier café de la journée.
Nous sommes tous différents et absolument inégaux face aux effets de la caféine, et on sait effectivement qu'il y a des gens qui sont très sensibles à la caféine et d'autres qui ne sont pas du tout sensibles à la caféine. C'est probablement génétique. On sait que la caféine agit sur un récepteur qui est le récepteur de l'adénosine, qui est un récepteur qui est effectivement très impliqué dans le besoin de sommeil. Et donc, effectivement, il y a des gens qui sont extrêmement sensibles à ça et d'autres pas du tout. On n'a aucune hypothèse, on ne sait pas. On s'y intéresse de plus en plus parce qu'effectivement, ça va permettre éventuellement de développer des molécules pour faire dormir les gens, soit pour les maintenir éveillés. Mais voilà.
Parce que je pensais aussi que ça pouvait être une habitude, en fait, les gens qui ont l'habitude de boire du café, après, ils sont...
Alors, il y a un côté d'habitude, effectivement, mais il est peu prononcé par rapport à... J'ai dit qu'il y a surtout des gens qui sont très sensibles au café et d'autres qui sont complètement insensibles au café.
Ok, merci.
Je ne sais pas comment poser ma question. Si jamais on dort de manière irrégulière, est-ce que c'est rattrapable ? Enfin, je ne sais pas comment... Si un jour on va dormir à minuit, le lendemain à 22h, le lendemain...
Est-ce que c'est rattrapable ? Alors, est-ce que c'est rattrapable ? Oui, mais pas tout. On ne rattrape que 50% du sommeil qu'on ne fait pas. Globalement, quand même, on conseille, pour bien dormir, d'avoir des horaires de coucher le plus fixe possible. Et si possible avant minuit, Parce qu'évidemment, ma grand-mère avait encore raison, les heures avant minuit comptent double. Et donc, effectivement, vous auriez pu inviter ma grand-mère, d'ailleurs, on aurait fait un topo tout à fait très bien, depuis le temps que j'en parle. Et donc, effectivement, on conseille quand même d'avoir des horaires de coucher et de lever le plus régulier possible, parce que le cerveau aime bien la routine. D'accord ? Donc, même l'organisme, il aime bien la routine, il aime bien quand les choses se reproduisent d'une manière rythmique. Il connaît bien, il s'auto-entraîne et il s'auto-entraîne, d'accord, il s'auto-maintient. Donc effectivement, quand effectivement vous faites une nuit un peu courte, en vous couchant un peu tard par exemple, vous pouvez vous coucher un peu plus tôt le lendemain, vous allez rattraper. Vous rattraperez votre nuit courte, d'autant mieux, d'autant plus que vous êtes jeune d'ailleurs, parce qu'effectivement avec l'âge, cette plasticité du sommeil, eh bien, elle perd de sa qualité et le sommeil devient un peu plus rigide. Et donc, c'est plus difficile avec l'avancée de l'âge.
Et deuxième question, pourquoi la fatigue, on la ressent souvent, pas le lendemain, mais deux jours après ?
Alors, c'est quasiment pas étudié. C'est un phénomène qui est tout à fait réel, mais qui est quasiment pas étudié et je n'ai pas d'explication là-dessus. Peut-être que, en ce qui concerne les gens qui travaillent ou qui sont privés de sommeil à cause de leur travail, il y a peut-être une espèce de diminution de pression ou de rupture de tension où les gens se sont maintenus à un niveau d'éveil très important, qui fait qu'effectivement ça maintient réveillé et que les gens, après une nuit courte, sont moins fatigués, et puis par rapport au jour d'après où effectivement cette excitation n'existe pas. Ce qu'on sait aussi, c'est que quand on dort trop, curieusement, ça peut avoir un impact sur le reste de la journée. Par exemple, si vous dormez normalement et régulièrement et que vous faites pour une raison X ou Y, parce que vous faites une grasse matinée le dimanche par exemple, la journée, la veille et les performances après une grasse matinée sont pas toujours équivalentes à celles d'habitude. Un petit peu comme s'il y a un syndrome qui s'appelle, mais ça ne s'apparente pas tout à fait à ce que vous dites, c'est ce qu'on appelle en anglais l'oversleep syndrome, c'est-à-dire le sommeil du trop de sommeil, trop dormir, et qui est simplement le fait effectivement que les gens ressentent une malaise ou un problème, une fatigue, mais pas après une privation, mais après une extension de sommeil un petit peu anormale. On ne comprend pas très bien ça encore. On est vraiment au tout début de la compréhension du sommeil. On ne sait pas bien mesurer ses effets. La fatigue, c'est très compliqué à mesurer. On ne sait pas très bien ce que c'est, finalement. Donc, c'est très compliqué à mesurer.
Alors, deux aspects relativement liés. L'étude du cycle sur une année, avec le fait que les nuits sont plus courtes l'été, plus longues l'hiver, et un peu lié à ça, l'impact de la lumière. Donc, dans quelle mesure on peut s'adapter à l'échelle d'une année sur des périodes de sommeil qui seraient progressivement de plus en plus courtes, progressivement de plus en plus longues, d'où la sieste l'été qui était pratiquée à une certaine époque.
Absolument, c'est une excellente question. Le sommeil est très très influencé par la lumière. D'accord, hein, cette horloge interne dont je vous parlais tout à l'heure, hein, il y a plusieurs facteurs qui agissent sur cette horloge interne. Il y a l'activité physique, on en a parlé, mais il y a aussi la lumière. D'accord, ici, c'est exactement ce qui se passe quand vous voyagez, ou si ici, on restait tous enfermés comme ça pendant une semaine et que j'intervertissais le jour et la nuit simplement en allumant les lumières la nuit. Eh bien, au bout d'une petite semaine, on se serait tous inversés, c'est-à-dire qu'on considérerait que quand il y a la lumière, eh bien, c'est la journée qu'il faut se lever et qu'il faut qu'on fasse des activités, et puis que quand il n'y a plus de lumière, c'est le moment de dormir. Donc la lumière est en effet très importante dans la régulation du sommeil, et c'est pour ça effectivement. Alors la sieste l'été, c'est pas donc ça colle pas trop, c'est plutôt la température ou les vacances en fait. Mais on sait par exemple qu'effectivement les gens dorment dorment un peu mieux, dorment un peu plus longtemps l'hiver quand il y a moins de lumière, et que par contre, ça leur est beaucoup plus facile de se réveiller l'été quand l'exposition lumineuse est très importante. C'est aussi ce qu'on conseille aux gens qui ont du mal à trouver le sommeil. On leur conseille de s'exposer à la lumière le matin et d'éviter de s'exposer à la lumière du soleil le soir. D'accord ? Moi, mes patients qui ont du mal à trouver le sommeil, qui sont insomniaques et qui ont du mal à s'endormir, je leur conseille de ne pas regarder le coucher de soleil parce qu'effectivement, la lumière du soleil arrive directement dans l'œil, elle va directement sur le cerveau. Il y a une liaison directe entre les cellules de l'œil et les centres du sommeil. L'œil ne sert pas uniquement à voir. On sait maintenant, mais ça, on le sait que depuis 3-4 ans, que l'œil ne sert pas uniquement à voir. Il sert aussi à détecter le moment de changement de la lumière. Il y a des nerfs directement qui partent de la rétine et qui plongent vers une petite structure qu'on appelle l'hypothalamus et qui est très, très importante dans le déclenchement du sommeil. Donc, effectivement, on conseille aux sujets qui ont du mal à s'endormir de s'exposer à la lumière le matin pour réveiller leur cerveau. Et au contraire, de porter des lunettes de soleil en fin de journée pour pas qu'ils s'exposent à la lumière du soleil pour faciliter l'endormissement.
Voilà. Bonsoir, monsieur. Ma question est de, pour une personne déterminée, est-ce que sa quantité suffisante de sommeil est fixe ? Est-ce qu'il y a des possibilités de pousser sa limite sans payer le prix de santé ?
Alors, vous voulez me demander finalement si vous pouvez travailler plus pour vos examens, avoir de bonnes notes en travaillant encore moins. D'accord. Alors, ça a été fait. Il y a des expériences qui ont été faites comme ça, hein, où les gens ont demandé à des couples en fait, de réduire toutes les semaines d'un quart d'heure. Ils y sont arrivés, effectivement. Ils sont arrivés à réduire, mais il y a eu un moment donné où vraiment, ça a été difficile de progresser. Et en fait, en dessous de 5-6 heures, alors ça dépend, c'est variable, hein, mais en dessous de 5 heures, c'est vraiment difficile de continuer à rogner sur son sommeil. Après, toutes les conséquences neuropsychologiques du genre irritabilité, problèmes d'humeur, engueulades diverses et variées, vont faire que ça va être difficile de poursuivre la restriction de sommeil. Ça a été étudié. Ce n'est pas forcément conseillé par la faculté, bien évidemment, au vu du topo que je viens faire. Mais c'est faisable pendant quelques semaines. On peut réduire un petit peu sa quantité de sommeil. C'est possible. Après, ça n'a pas été étudié sur le long terme. Il y a fort à parier que si vous avez besoin naturellement de 7-8 heures de sommeil et que vous dormez... C'est-à-dire que si vous avez besoin de 8 heures de sommeil et que vous dormez 5 heures pendant 10-15 jours, vous n'aurez pas d'hypertension artérielle, vous n'allez pas déclencher l'infarctus et vous n'allez pas prendre 110 kilos. Quoi. Enfin, ça va pas être... c'est pas 3 semaines qui vont vous faire basculer dans son genre de maladie. Néanmoins, vous allez peut-être pouvoir grossir, ça, c'est pas exclu. Vous allez pouvoir prendre quelques kilos. Mais si vous maintenez cette privation de sommeil sur plusieurs mois, sur plusieurs années, là, effectivement, vous allez vous retrouver dans des conséquences chroniques de diabète, de surpoids, et éventuellement d'hypertension artérielle, si ça existe. Donc, on peut, pour 15 jours, 3 semaines, pour les examens, oui. Pour toute la vie, non.
Je voulais savoir, donc on parle de durée de sommeil et qualité de sommeil. Le fait de dormir suffisamment de temps, mais on a l'impression de ne pas dormir parce qu'on est toujours à l'écoute des bruits, etc. Est-ce que c'est un mauvais sommeil ? Est-ce que ça a des conséquences ?
Absolument. Mon propos ne s'intéressait uniquement à des volontaires sains. C'est la plupart des études, toutes les études que j'ai montrées, étaient chez des gens sains qui n'avaient pas de problème de sommeil. On parle bien de qualité normale, mais quantité réduite. Alors, comme je l'ai dit dans mon introduction, dans les différentes causes, hein, effectivement, le manque de sommeil, c'est aussi un manque de sommeil de bonne qualité, qui peut être remplacé par la même quantité de sommeil de mauvaise qualité. Et donc, effectivement, les gens qui ont... un sommeil en quantité normale mais dont la qualité n'est pas bonne, comme les gens qui, qui ronflent ou les gens qui font des apnées du sommeil se retrouvent dans, dans la même situation avec, elles aussi, des problèmes de santé de type diabète et surpoids. J'en ai juste parlé un petit peu à la fin concernant donc ce qu'on peut appeler, ce qu'on met sous le terme générique d'insomnie. D'accord ? C'est pas encore très sûr. C'est-à-dire que le problème, c'est que les gens qui font des apnées du sommeil, par exemple, ils ont un sommeil de mauvaise qualité, mais ils n'ont pas que ça. C'est-à-dire que la nuit, ils ne respirent pas bien, ils s'arrêtent de respirer, ils manquent d'oxygène. Donc il y a les deux soucis. D'accord ? Et en plus, il y a d'autres problèmes, puisqu'il y a des problèmes d'activation et de réactivation cardiovasculaire à la fin de chaque apnée. Il y a un réveil en sursaut. Donc voilà. Donc il n'y a pas que une perte de qualité du sommeil à quantité égale. Il y a d'autres choses. Chez les insomniaques, c'est moins vrai. Les études sont plus partagées pour dire que cette mauvaise qualité du sommeil, où a priori là, il n'y a pas d'autres ronflements ou il n'y a pas d'autres problèmes d'oxygène dans le sang, les effets sont probablement moins importants. Mais peut-être qu'à l'avenir, on s'apercevra que c'est le cas. La tendance actuelle, effectivement, c'est quand même de considérer que le sommeil est quelque chose de très important et que quand la qualité est altérée, il y a des conséquences sur la santé. Même si, voilà, même à quantité normale, il y a qualité altérée, comme chez les gens qui n'ont pas un sommeil suffisamment profond, qui se réveillent tout le temps, qui se réveillent trop tôt, qui se réveillent en pleine nuit. Ça, c'est possiblement délétère et ça peut exposer à des problèmes de santé. On saura ça dans 5 à 8 ans, à mon avis, les études sont en cours.
Bonsoir. On a vu tout à l'heure que vers 22h, on avait des signaux d'endormissement qui arrivaient. Moi, je travaille de nuit, en fait, et j'ai déjà entendu parler d'un phénomène qui était nommé creux biologique. Je ne sais pas si vraiment ça existe, quoi. Et qui se situerait entre 2-3 heures du matin, voire 2-4 heures du matin, où là, on était un peu en hypovigilance. Et il fallait faire beaucoup plus attention. Je voulais savoir si ça a été vraiment constaté.
Ah, c'est absolument vrai.
Ah oui,
c'est absolument vrai. C'est absolument vrai. Effectivement, il y a le premier, c'est-à-dire que dans les deux facteurs qui régissent et qui commandent votre endormissement, et donc il y a l'horloge interne et le besoin de sommeil. L'horloge interne, elle vous dit à 22h, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, on sent le train qui passe. Et donc, effectivement, il y a un petit coup de barre, on résiste, ça passe. Et puis, le prochain, il est 1h30 après. Il est moins fort, d'ailleurs, il est moins sympa. Il est moins fort, mais bon, il arrive. Donc, à ça. Néanmoins, après, si vous continuez à veiller, effectivement, l'horloge interne, elle va dire, pas de manière aussi aiguë, ça ne va pas être un pic, ça va être plus latent. Et elle va dire, vraiment, là, il est 3h du matin. Elle va dire au cerveau, là, il est 3h du matin, il faut vraiment penser à dormir. Vraiment, là, 3h du matin... Puis à 4h du matin, l'horloge interne, elle va dire au cerveau, là, il est 4h du matin, il faut vraiment, vraiment penser à dormir. Puis à 5h du matin, elle va dire, non, mais attends, ça suffit, là, vraiment, il faut dormir. Et à 6h du matin, elle va vous dire, debout là-dedans, maintenant, il faut se réveiller. À 7h du matin, allez, hop, debout. D'accord ? Donc le signal, il est fluctuant. Le problème, c'est qu'à 3h du matin, donc, il y a l'horloge interne qui insiste pour dormir, mais il y a aussi le besoin de sommeil qui pousse. D'accord ? Et parce qu'à 3h du matin, ça fait très longtemps qu'on est resté réveillé, et là, le besoin de sommeil, il s'est accumulé, et donc là, le cerveau, il dit, mais maintenant, moi aussi, j'ai besoin de dormir. Donc, il y a une horloge interne qui vous dit, là, franchement, vous exagérez, c'est l'heure d'aller pioncer, et deux, le cerveau qui vous dit, ah non, j'en peux plus, là, moi, ça fait 18 heures que je suis réveillé, j'ai besoin de dormir. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, après 2-3 heures du matin, entre 3 à 5 heures du matin, il y a une période extrêmement difficile, avec une baisse des vigilances très importante, de la vigilance très importante. Il y a des gens qui connaissent très bien ça, c'est les gens qui font de l'accidentologie routière, encore, je reviens là-dessus. Le pic des accidents nocturnes, il est à 3h du matin. C'est-à-dire que c'est là que les gens s'endorment, c'est là que les gens s'assoupissent, c'est là qu'ils ne réagissent plus. Donc voilà. Donc c'est pas à 6h du matin, c'est pas à 7h du matin, c'est pas à 2h du matin, c'est entre 3 et 5h du matin, où là, le cerveau vraiment fonctionne contre nature. La nature a mis en place plein de contrôles pour faire qu'on puisse dormir la nuit. Donc là, vous êtes contre votre nature et vous luttez, vous y arrivez, mais au prix de gros efforts et d'une imparfaite efficacité.
Ces mécanismes du sommeil que vous venez de citer sur ces tranches horaires sont-elles identiques ou symétriques à celles du réveil, quand on doit décaler en intervention sur ces créneaux-là, pour ces problématiques-là.
Absolument, tout à fait. Se réveiller, c'est pareil. Quand on dort, le sommeil il est très profond en milieu de nuit, là, à ce moment-là. Donc pour se réveiller à 3 heures du matin, c'est très douloureux, c'est très difficile. C'est beaucoup plus facile à 6 heures, parce que l'horloge interne elle commence à dire « va falloir se réveiller, tout doucement, allez ». Et donc là, quand le réveil sonne, ou quand après avec un petit peu de stress, on se réveille plus facilement. Ce d'autant que vers 6 heures du matin, le besoin de sommeil a été résorbé une bonne partie de la nuit. Donc le cerveau lui dit « Oui, c'est bon, ici, ça va. Hein, on a dormi 5 heures, 6 heures, 7 heures, c'est suffisant. J'ai le besoin de sommeil, je l'ai évacué, donc ça va. » Donc ça fait deux composantes, effectivement, qui fait que finalement, c'est plus facile de se réveiller à 6 heures du matin, voire même 5 heures et demie du matin. Parce qu'effectivement, l'horloge interne et les deux signaux coïncident.
Est-ce que le lien entre l'augmentation de l'immunité et le sommeil a été prouvé ?
L'augmentation de l'immunité. De l'immunité.
Et le temps de sommeil ?
Alors, oui. Alors, c'est pas l'augmentation, c'est l'augmentation, oui, si vous voulez. Mais c'est surtout l'impact de la baisse du temps de sommeil, donc du manque de sommeil, sur l'immunité, ça a été parfaitement démontré. Ça, c'est clair que... Alors, je ne l'ai pas mis là-dessus parce que ça, on partait un petit peu trop, mais effectivement, il y a une étude qui est une très jolie étude, et puis ça a été confirmé quand ils avaient fait... Enfin, ce n'est pas nous, c'est des chercheurs américains qui avaient vacciné les gens contre la grippe. Ils avaient pris 30 sujets, des gens en pleine santé, ils les avaient vaccinés contre la grippe. Ils avaient fait deux groupes. Un groupe leur avait dit, vous dormez normalement, 8 heures par nuit. Et l'autre groupe, il dit, vous dormez 4 heures là. Pour les 15 jours qui viennent, vous dormez 4 heures. Et puis au bout de 15 jours, ils ont fait des prises de sang et ils ont mesuré le taux d'anticorps. Les vaccins, ça stimule les globules blancs et les globules blancs vont produire des anticorps. Et ils avaient mesuré la quantité d'anticorps 15 jours, enfin au 15e jour dans les deux groupes. Ils sont aperçus que ceux qui avaient dormi 8 heures par nuit, ils avaient des taux d'anticorps comme ça, et que ceux qui avaient dormi 4 heures ou 5 heures par nuit, ils avaient des taux d'anticorps nettement plus bas. Donc ça, effectivement, c'est absolument clair. Et c'est pour ça qu'on attrape tous les virus qui passent quand on est fatigué, parce que, pour raison X ou Y, parce que les enfants sont malades, parce qu'il y a beaucoup de travail, parce qu'il faut s'occuper des parents, ou des choses comme ça, quoi. Donc c'est absolument vrai.
Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la qualité du sommeil artificiel, c'est-à-dire avec somnifères ? Est-ce qu'on a des données précises sur la récupération par rapport au cerveau, etc. ?
Oui, on a des données extrêmement précises. C'est vraiment du sommeil artificiel. C'est-à-dire que les hypnotiques, le Stilnox, l'Imovan, des choses comme ça, donc les trucs qu'on prend pour dormir et pour déclencher le sommeil, vont effectivement être très intéressants dans le sens où ils vont nous faire passer de l'éveil au sommeil, mais ça va être beaucoup moins intéressant pour le sommeil parce qu'en fait, ça va nous maintenir dans le sommeil léger. Et ça va bloquer le sommeil profond, c'est-à-dire qu'on va rester dans un sommeil léger et que le cerveau ne va pas aller dans le sommeil profond. Et c'est le sommeil profond qui est le plus restaurateur, le plus reposant, le plus récupérateur. Donc effectivement, globalement, les gens sont assez contents parce qu'ils ne passent pas des heures au lit, à tourner dans leur lit, ils s'endorment. Mais leur sommeil, il n'est pas très récupérateur, il n'est pas physiologique, ce n'est pas le meilleur sommeil qui soit. Et le lendemain, parfois, ils se réveillent fatigués, pas très satisfaits de leur sommeil, pas très satisfaits de leur nuit. C'est en partie à cause des effets de ces hypnotiques qui ont provoqué ce genre d'effets sur le sommeil profond.
Les rêves sont dans le sommeil léger.
Alors les rêves sont dans le sommeil paradoxal.
D'accord. Donc les somnifères,
n'influent pas
la période des rêves.
Non, ça influe pas tellement les périodes des rêves. Ça influe surtout le sommeil lent, mais ça maintient le sommeil, le cerveau dans le sommeil lent léger et ça bloque le sommeil lent profond, qui est le plus restaurateur sur les muscles, sur les capacités physiques authentiques, alors que le sommeil paradoxal, lui, s'occupe de la récupération psychique, pour beaucoup.
Donc il vaut mieux ne pas dormir trois nuits, quatre nuits, enfin jusqu'à tomber, plutôt que...
Alors non, c'est pas ça. C'est qu'il faut trouver des moyens pour dormir en utilisant le moins possible de médicaments. Les médicaments anti-insomnie sont pas vraiment des bons médicaments. Et il faut essayer de par d'autres moyens, déjà en consultant un centre du sommeil, et ensuite avec d'autres moyens pour améliorer la qualité de son sommeil. Alors, il y a effectivement des fois où les gens sont obligés d'en prendre, ils le font, mais c'est pas la solution. C'est une solution qui peut être effectivement valable pendant une quinzaine de jours, mais après. Il y a une dépendance qui s'installe aussi avec ces médicaments, donc il y a d'autres soucis qui sont beaucoup plus compliqués, qui font que les spécialistes du sommeil hésitent vraiment à prescrire des hypnotiques. On fait qu'on vraiment c'est impossible, et encore moi ça n'est pas arrivé beaucoup d'avoir recours, parce qu'après c'est vraiment pas une solution, c'est pas une bonne solution. Mais en même temps, on manque vraiment de ressources thérapeutiques à côté. Donc, je comprends que les médecins généralistes en prescrivent plus, parce que derrière, on n'a pas. Alors, ça va peut-être venir. Il y a peut-être d'autres médicaments qui n'auront pas les effets secondaires que je viens de citer et qui seront de mieux. Il y en a qui sont en développement dans l'industrie pharmaceutique, mais pour le moment, on a toujours ces tranquillisants ou ces hypnotiques qui ne sont pas super top pour la physiologie du sommeil. Voilà, c'est à peu près la même chose. Hein. Les anxiolytiques, les tranquillisants, c'est exactement la même chose. Ça facilite le passage de la veille au sommeil. Ça diminue un petit peu même le niveau de veille. Mais ensuite, effectivement, ça maintient le sommeil léger et ça empêche la survenue du sommeil le plus récupérateur. C'est la même famille.
Oui, bonsoir. Comment font les marins pour les courses en solitaire ?
Excellente question. Les marins en solitaire, quand ils savent qu'il y a des neurophysiologistes et des spécialistes du sommeil qui existent, eh bien, ils viennent les voir pour essayer de comprendre un petit peu comment ils dorment. Et surtout, comment ils font ? Ils font des siestes. Ils font des siestes assez courtes, de 30, 40 minutes au maximum. Tous n'y arrivent pas. Mais ils fragmentent leur sommeil, ils font 40 minutes toutes les 3 heures ou 2 heures quand ils peuvent, mais ils sont obligés de fragmenter tout ça. Ceux qui arrivent à faire ces petites siestes-là, ils ont manifestement et très clairement, ça a été démontré, un avantage par rapport aux autres. Parce qu'effectivement, quand ces sujets qui sont en général sains ne dorment pas pendant plusieurs jours, là, le cerveau, il part en vrille. Hein. Régulièrement, il y en a qui ont des hallucinations. Je crois qu'il y en avait il y a un an ou deux, il y en a un qui racontait qu'il était très content d'avoir pris le café avec Barack Obama sur son pont. C'était une visite très très sympa d'ailleurs de la part du président américain. Il y en a d'autres qui voient des éléphants roses ou qui ont des hallucinations, hein, très clairement. Mais ça, c'est parce que le cerveau manque de sommeil et là, il sait plus. Donc ceux qui ils essaient de faire des petites siestes et de connaître d'abord leur sommeil, et puis de réduire un petit peu leur sommeil avant à terre, et puis ensuite de s'habituer à dormir un petit peu. L'enjeu pour eux est énorme. Et donc, effectivement, il y en a un certain nombre qui essaient d'apprendre à faire des petites siestes. Comme je disais, tous ne le peuvent pas. Mais on peut apprendre à se détendre correctement une demi-heure toutes les 3 heures. Et puis, une fois qu'on a pris ce pli-là, eh bien, on peut arriver ils peuvent arriver, dans une certaine mesure, à le renforcer et à l'utiliser à bon escient durant leur longue privation de sommeil, durant leur course.
Enfin, en règle générale, ce sont des courses de quoi, d'un mois ou d'un mois et demi. Donc
alors, moi, je parle de la course du Figaro qui est ce qui.
Moi, je parlais de la course du Rhum ou alors celle la course autour du monde,
alors,
par exemple.
C'est un peu la même chose, mais là, c'est un peu différent parce qu'ils peuvent faire plus d'épisodes de sommeil un peu plus longs. Bien sûr, il y a des grands bords et des grandes traversées. Ils règlent, ils ont un pilote automatique et peuvent faire 3-4 heures de sommeil. Donc les conditions sont un petit peu différentes. Effectivement, sur un mois ou la course du Rhum, où c'est plusieurs mois, ils ont un peu plus de temps. Et le bateau ne nécessite pas de réglage si fréquent que ça. À la différence de la course du Figaro, où ils ont 2 à 3 jours de course, où là, ils ont à 2 heures de réglage près. Donc là où c'est beaucoup plus difficile, là, ils dorment par tranche de quelques minutes, d'une demi-heure ou plus.
Mais ils arrivent à avoir des sommeils profonds, comment ça se passe?
Ils arrivent à avoir des sommeils profonds, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont tellement en privation de sommeil que, eh bien, ils font des petites siestes et ils font du sommeil profond en 5 minutes. C'est-à-dire que dès qu'ils ferment les yeux, ils ont un sommeil profond, ils arrivent même à raccourcir leur cycle. Certains arrivent à raccourcir leur cycle de jusqu'à 30-40 minutes et à faire du sommeil paradoxal au bout de 30 minutes, alors que normalement on le fait au bout de 70 minutes. D'accord. Donc ils arrivent effectivement à raccourcir leur cycle du sommeil et à faire un cycle complet de sommeil sur 30-45 minutes. Mais bon, c'est vraiment des conditions tout à fait particulières. Hein. C'est qu'ils font une nuit blanche. Alors, théoriquement, ils n'essaient pas de faire de nuit blanche. Justement, ils essaient dès qu'ils voient qu'ils ont 2 heures devant eux. Alors, ils ont toujours plein de choses à faire sur leur bateau, de météo, de prévision, de calcul, de courant, des choses comme ça. Mais dès qu'ils peuvent, ils essaient de faire un peu de sommeil comme ça, dès qu'ils peuvent. Et donc, de fragmenter, de faire des petits bouts de sommeil, d'avoir... Alors, ils n'ont jamais leurs 8 heures, mais de faire au moins 4-5 heures de sommeil par 24 heures, mais par petits bouts comme ça de 45 minutes.
J'avais une question, je m'excuse. Oui. Par rapport à la qualité du sommeil, rassurez-nous, dans le sommeil, il y a toujours une phase paradoxale. Est-ce qu'il peut ne pas y en avoir?
Non. Enfin, il peut ne pas y en avoir. Ça dépend. Si, il y a certains médicaments qui bloquent... le sommeil paradoxal, vous dire le sommeil de rêve.
Oui.
Il y a certains médicaments qui bloquent le sommeil de rêve, mais à un moment donné, le cerveau arrive à s'échapper. Donc, c'est très rare qu'il n'y ait pas qu'un patient ne fasse pas de sommeil paradoxal. Moi, j'en ai jamais vu. Enfin, j'en ai vu exceptionnellement, et c'était un peu particulier. Les antidépresseurs. Et donc, ça bloque le sommeil de rêve. Pendant 15 jours, 3 semaines, et après le cerveau arrive à passer outre. Mais effectivement, la plupart des gens qui sont là, enfin même tous les gens qui sont là, feront dans quelques heures du sommeil paradoxal, du sommeil de rêve avec les très beaux rêves.
Même si on ne s'en souvient pas.
Absolument, même si vous n'en souvenez pas. Ce n'est pas parce que vous n'en souvenez pas que vous n'en avez pas fait. Ça, c'est assez indépendant. Alors après, il y a des gens qui se souviennent très bien et d'autres pas. Mais on peut ne pas se souvenir de ses rêves sans pour autant ne pas en avoir fait. Donc on fait des rêves, on s'en souvient pas toujours, on rêve toutes les nuits globalement, on fait du sommeil paradoxal toutes les nuits, on rêve toutes les nuits, mais on s'en souvient pas tous les matins, ça c'est clair. Oui, je crois qu'il y a une dame là-bas qui avait une question depuis un petit bout de temps.
Bonsoir. J'aurais voulu avoir votre avis sur les hypnotiques et l'apnée du sommeil,
corrigée par ventilation nocturne.
Oui, voilà.
Alors, apnée du sommeil, hypnotique. Donc les hypnotiques ou les tranquillisants, les benzodiazépines, hein, c'est un peu la même famille, sont effectivement des médicaments qui facilitent le sommeil. Ça décontracte aussi les muscles. Et donc ça, effectivement, c'est pas bon du tout quand on a un syndrome d'apnée du sommeil, quand on ronfle, quand on a un syndrome d'apnée du sommeil. Quand le syndrome d'apnée du sommeil est corrigé par une ventilation nocturne, on peut prendre des hypnotiques si on en a besoin. Il n'y a pas d'impact sur la respiration si le traitement, si la ventilation est bien utilisée, bien réglée, il n'y a pas de souci.
Pas trop longtemps.
Pardon ?
Pas trop longtemps.
Pas trop longtemps, comme toujours avec les médicaments hypnotiques, parce que... parce que c'est la même chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça favorise le sommeil léger, ça gêne quand même le sommeil profond, et donc on se réveille le matin, on n'est pas toujours bien efficace, ça peut provoquer des fatigues, ça peut provoquer des petits troubles de la mémoire, donc bon. Donc les médicaments du sommeil sont quand même pas très très bons, hein. En tout cas les hypnotiques, c'est pas des super, hein. On a encore des choses à découvrir, hein, pour aider les patients qui ont du mal à dormir.
Merci.
Ça peut aider, absolument, tout à fait. Oui, non, ça peut aider. On peut s'appuyer sur l'homéopathie, sur les plantes. La seule molécule qui a tendance à réveiller, c'est la menthe, donc on évite. Mais sinon, tilleul, verveine, tout ça, ça peut favoriser l'endormissement.
Voilà, écoutez, merci pour vos nombreuses questions. Merci encore au professeur Drouot.
C'est moi qui
voilà,
vous remercie.
L'habitude de l'Espace Mendès France, on termine à 22h30. Donc voilà, il vous reste 5 petites minutes pour regagner votre véhicule. Et bonne nuit à tous. Voilà, à bientôt. Au revoir.